À votre matinale info jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec vous, Hélène Zellani, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité ce matin.
La France a à nouveau frappé au cœur. 3 morts hier soir en plein marché de Noël à Strasbourg. Le tireur qui a réussi à prendre la fuite est activement recherché. Nous serons sur place dès le début de ce journal avec Mathieu Bock. Les autorités ont rapidement identifié le suspect, un homme de 29 ans né à Strasbourg, fiché S depuis 2 ans pour radicalisation. Il aurait dû être arrêté le matin même. La majeure partie de ce journal sera bien sûr consacré à cette fusillade meurtrière, mais nous parlerons aussi de la mobilisation des Gilets jaunes qui perdure et du PSG qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions à Belgrade.
Europe 1.
Du sang, des cris et des larmes au milieu des guirlandes, des sapins de Noël et des chalets illuminés. Terribles images hier soir à Strasbourg. La 449e édition du traditionnel marché de Noël, l'un des plus connus au monde, a basculé dans l'horreur aux environs de 20h quand un homme a tiré dans la foule. Vous êtes sur place, Mathieu Bock. Pour l'instant, ce suspect est toujours en fuite.
Oui, cet homme est recherché par plus de 350 personnes, policiers et gendarmes qui quadrillent Strasbourg. 2 hélicoptères ont tourné une partie de la nuit au-dessus de la ville et aux alentours, car le suspect pourrait avoir pris la fuite en direction de l'Allemagne, toute proche. Avec son pistolet automatique, l'homme a braqué un chauffeur de taxi avant de s'enfuir au volant de sa voiture. Le témoignage de ce chauffeur aurait grandement aidé les enquêteurs, car il leur aurait précisé que le fugitif avait bien été blessé par balle, au bras comme il le pensait, car après avoir tiré sur ses victimes, l'homme aurait par 2 fois eu des échanges de tirs avec les militaires de l'opération Sentinelle dans un premier temps, puis avec des policiers dans un deuxième temps. Ceux-ci ont d'ailleurs effectué des descentes dans plusieurs appartements, des planques probables de ce suspect, mais suspect qui est pour le moment toujours introuvable.
Mathieu Bock, vous êtes en direct de Strasbourg pour Europe 1. On l'a dit, 3 morts, 12 blessés, dont 6 très graves. Bilan malheureusement provisoire. Audvernuccio, il n'était pas encore 20h quand les premiers tirs ont été entendus.
Oui, et d'après plusieurs témoins, la fusillade aurait commencé rue des Orfèvres, en plein centre-ville, dans la zone du marché de Noël. 19h50, cette mère de famille dîne avec ses 2 enfants lorsque l'assaillant tire à plusieurs reprises.
On croyait que c'était des feux d'artifice. On est allé à la fenêtre et dans notre rue, on a vu juste une foule autour de 2 personnes qui étaient allongées par terre. Ils ont mis des couvertures, ça commençait à sembler grave.
Le tireur se dirige ensuite vers la place Kléber, là où est installé le plus haut sapin de Noël d'Europe. Dans sa course, il tire à nouveau plusieurs fois, raconte Philippe, un habitant qui allait justement rentrer chez lui.
Puis d'un coup, quelqu'un est arrivé vers moi en me disant « c'est fou, il y a un mec qui tire sur les gens ». Donc du coup, je me suis approché pour voir ce qui se passait. Et effectivement, j'ai vu une personne au sol avec du sang qui coulait, qui était inconsciente, et une autre personne qui était juste derrière elle, par terre. Et quand j'ai vu que les gens couraient, j'étais juste devant la porte de chez moi. J'ai dit aux gens de venir, rentrer, et voilà.
Cris de terreur, mouvement de foule, les militaires de Sentinelle demandent aux passants, aux commerçants, aux restaurants de fermer leurs portes. Sam et plusieurs de ses amis sont alors dans un bar.
Ça s'est passé hyper vite, j'ai juste vu des gens au sol et le mec qui s'occupait du bar ce soir-là nous a dit « Vous passez par la porte de derrière, vous vous sécurisez, vous montez le plus haut possible, vous toquez aux portes ». Et on est resté pendant 3 heures barricadés dans un immeuble au 3e étage par une famille qui nous a agréablement accueillis avec des boissons chaudes, voilà, de la nourriture, tout.
Et sur son chemin, policiers et militaires tentent de stopper l'assaillant. Échange de tirs, il est blessé vraisemblablement au bras, mais parvient malgré tout à s'enfuir en s'engouffrant dans un taxi. Il reste donc ce matin introuvable.
Audvernuccio, le marché de Noël ne rouvrira pas aujourd'hui. Tous les cours sont suspendus dans les écoles maternelles et élémentaires. L'Académie de Strasbourg recommande aux parents de garder les enfants à la maison. Pas de bus ni de tram. Tous les drapeaux seront mis en berne pour une journée de deuil à la mémoire des victimes. Europe 1, il est 7h04.
Récit stupéfiant dans le reportage d'Audvernuccio, et je retiens aussi ce que nous disait tout à l'heure notre envoyé spécial Mathieu Bock. Le suspect pourrait avoir pris la fuite pour l'Allemagne. En tous les cas, une enquête est ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
Oui, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est rapidement rendu à Strasbourg. Jusqu'ici, la France était en alerte vigile pirate renforcée. Le gouvernement décide de passer au niveau supérieur.
Le gouvernement vient de décider de passer en urgence attentat avec la mise en place de contrôles renforcés aux frontières, avec aussi la mise en place de contrôles, là encore renforcés, sur l'ensemble des marchés de Noël qui se dérouleront en France pour éviter le risque de mimétisme. Il y aura aussi en complément une mobilisation plus forte encore du dispositif Sentinelle sur l'ensemble du territoire français.
Le ministre de l'Intérieur au micro Europe 1 d'Arthur Elmbaché, précision que dans le cadre de ce niveau urgence attentat, les préfets ont la possibilité de signer un arrêté interdisant les manifestations pour laisser le champ libre aux forces de l'ordre. L'homme qui a semé la terreur au marché de Noël est donc toujours en fuite ce matin, mais il a été rapidement identifié à l'ANCO et vous avez pu rassembler plusieurs informations importantes sur son profil.
Oui, un profil déjà vu dans ce type d'attaque. Délinquant de droit commun, on l'a dit, bien connu de la police locale. Tenez-vous bien, il a 60 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour vol, violence, dégradation, outrage. Cet homme de 29 ans né à Strasbourg était aussi, vous l'avez dit, fiché S depuis deux ans, depuis un passage en prison au cours duquel il s'était fait remarquer pour son prosélytisme. Fiché S, ça veut dire prise en compte par la DGSI, mais évidemment pas forcément suivi par la DGSI car il n'avait pas un profil plus dangereux que beaucoup d'autres fichiers S dans le département.
Et ce qui est assez incroyable, Alain, c'est que ce suspect a failli être arrêté hier matin.
Oui, les gendarmes se sont présentés à son domicile dans le cadre d'une enquête sur une tentative d'homicide entre voyous, hein, soyons clairs, pour rackets, extorsions et produits contrefaits. Quatre de ses complices ont été arrêtés. Alors, est-ce que c'est cela, cette perquisition notamment, qui a permis de trouver une grenade et une arme à feu chez lui, qui l'a poussé à passer à l'acte? C'est une hypothèse. Cela s'est déjà vu au moins deux fois, avec l'auteur de l'attentat de Trèbes, notamment, qui avait été condamné, qui avait été convoqué deux fois par la DGSI pour l'entretien administratif. Et le jour de son troisième convocation, il était passé à l'acte. Et rappelez-vous également l'attaque sur les Champs-Élysées en juin 2017 contre un convoi de gendarmerie. Eh bien, l'auteur de cette attaque, le kamikaze de cette attaque, était lui aussi convoqué le jour même pour l'entretien administratif par la DGSI. Et au lieu de s'y rendre, il avait tenté de se faire sauter. La différence entre ces deux hommes et celui de Strasbourg, c'est que celui de Strasbourg, visiblement, n'avait pas l'intention de mourir en martyr.
Alain Acco, et cette nuit sur Twitter, Emmanuel Macron a fait part de la solidarité de la nation tout entière pour Strasbourg, les victimes et leurs familles, soutien également de Theresa May qui se dit choquée et attristée.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal. Alors il y a évidemment ce qui se passe à Strasbourg, mais nous serons sur un barrage des Gilets jaunes aussi, où certains ont retrouvé une famille. On vous dit tout dans le journal de 7h avec Hélène Zellani, juste après ça, tout de suite.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zellani. Hier, les autorités recensaient encore 2000 gilets jaunes mobilisés sur les barrages à travers le pays.
Oui, certains y passent leur journée, parfois leur nuit. Leurs motivations sont sociales, politiques, mais pas seulement. Ils ont parfois l'impression d'avoir trouvé une nouvelle famille, comme sur ce rond-point de l'agglomération de Douai. Écoutez le reportage de Lionel Gougelot.
Tous les jours sur le rond-point de Dechy, des habitants apportent des vivres et des boissons pour soutenir les gilets jaunes.
Si on a plein de monde qui nous ramène plein de trucs pour nous dépanner et tout. Allez, on fait la vie. Allez.
Et la vie s'organise sous la tonnelle prêtée par un artisan. Devant le bras zéro, Jordi, 20 ans, sans emploi, a trouvé ici un accueil fraternel.
Franchement, j'ai trouvé un refuge. Un petit peu, j'ai trouvé une nouvelle famille en fait. J'ai beaucoup de soutien. Je suis ici énormément, du matin jusqu'au soir. Je fais même des nuits blanches ici. Et franchement, c'est formidable.
Même réconfort pour Josiane, veuve et retraitée.
Ça me fait du bien parce que moi, j'ai un soutien moral dans tout. Puis on se comprend dans nos revendications.
Des témoignages de gilets jaunes que Didier recueille par écrit pour, dit-il, laisser un témoignage.
Chacun dit, ben moi, j'ai des difficultés de ceci, j'ai des difficultés de cela. Puis en même temps, on se connaît. Les gens sont contents de venir me parler de ça.
Et puis il arrive aussi que la solidarité s'organise pour un gilet jaune en difficulté.
J'ai mon câble d'embrayage qui a lâché. Et comme je suis arrivé ici, c'est un gilet jaune qui m'a réparé la voiture. Autrement, je n'aurais pas pu la réparer. On a formé vraiment une famille.
Tous frères et sœurs maintenant, les gilets jaunes. Donc c'est le seul truc que je peux dire. Merci Macron.
Un nouveau lien social qui semble renforcer la détermination des gilets jaunes. À Douai, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et hier, Emmanuel Macron a obtenu un geste des patrons des grandes banques françaises. Ils acceptent de geler les frais bancaires pour 2019 et pour les 3,5 millions de personnes les plus fragiles, les frais d'incident bancaire seront également plafonnés à 25 euros par mois. Selon la Banque de France, ça représente 5 à 600 millions d'euros de pouvoir d'achat rendus aux ménages. Le chef de l'État doit recevoir aujourd'hui les représentants des grandes entreprises qui devront eux aussi faire des efforts.
Football avec une superbe soirée pour le Paris Saint-Germain à Belgrade.
Oui, large victoire du PSG, 4 buts à 1 sur la pelouse de l'Étoile Rouge. Il se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions pour la 7e année d'affilée à Belgrade. Julien Froment.
On leur promettait de vivre l'enfer. Finalement, le Paris Saint-Germain a transformé le stade Maracana en paradis sur terre, d'une sérénité à toute épreuve. Les Parisiens ont fait le métier, efficace en attaque, solide en défense. Ils n'ont jamais cédé à la panique. Cette victoire face à Belgrade confirme la métamorphose d'une équipe qui s'est pourtant longtemps cherchée dans la compétition. Cette qualification, c'est un ouf de soulagement pour le capitaine Thiago Silva.
J'avais un poids de père
de pas passer au huitième de finale parce que vraiment c'était difficile. Et aujourd'hui, je crois qu'on a mérité de finir en premier de ce groupe, même avec toutes les difficultés qu'on a trouvées.
Double satisfaction pour Paris, tout d'abord avec cette qualification, c'est au bas mot 60 millions d'euros assurés à la fin de la saison. Un joli pécule pour un club menacé par le fair play financier. Enfin, en terminant premier de son groupe, le PSG peut espérer en huitième de finale un adversaire à sa portée. Réponse le lundi 17 décembre à l'occasion du tirage au sort Belgrade, Julien Froment, Europe 1.
Et hier soir, nouvelle défaite de Monaco qui est déjà éliminée. 2-0 à domicile contre Dortmund. Ce soir, Lyon se déplace à Kiev pour affronter Donetsk. Victoire ou nul, et c'est la qualification.
Le journal de 7h était présenté par Hélène Zelani. Bon réveil à tous.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h11, c'est l'édito éco avec Région Job. Des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous. Retrouvez-les sur regionjob.com. Et l'édito éco, c'est avec Nicolas Barré.
Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. L'actualité, ce sont aussi les gilets jaunes. Est-ce que le mouvement commence à s'essouffler? En tout cas, la revendication pour plus d'égalité, elle reste intacte, Nicolas.
Oui, c'est un des thèmes les plus fortement mis en avant. Il y aurait trop d'inégalités. Il faudrait donc taxer davantage les plus riches. C'est simple, ça sonne comme un slogan. Ça fait facilement consensus. Le paradoxe, c'est que nous sommes déjà l'un des pays les plus égalitaires de la planète. La France est la championne du monde de la redistribution des richesses. Chaque année, notre pays redistribue près de la moitié, 46,2% exactement, de la richesse qu'il produit, plus qu'aucun autre des 36 pays de l'OCDE, plus que le Danemark, à qui nous venons de ravir la première place des prélèvements obligatoires. Avec ce système de prélèvement et de redistribution, que se passe-t-il? Eh bien, nous transférons des richesses des plus riches aux plus pauvres à une échelle inégalée. Aucun pays ne fait mieux. Ce système de redistribution de richesses divise par deux les écarts de niveau de vie entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres.
Ce que vous nous dites en clair, Nicolas, c'est que notre système fiscal reste malgré tout très efficace pour réduire les inégalités.
Oui, et c'est frappant. Avant redistribution, on est un des pays où les écarts de revenus bruts sont les plus élevés qu'aux États-Unis. Mais une fois que les impôts et les cotisations sociales ont été prélevés, eh bien, les écarts deviennent parmi les plus faibles des pays développés. Notre système fiscal est donc très efficace pour corriger les inégalités, contrairement à ce que l'on entend souvent, notamment parmi les gilets jaunes. Et puis, autre légende qui ne résiste pas à l'analyse, les inégalités se seraient accrues ces dernières années. C'est faux, les 10% des ménages les plus aisés ont un niveau de vie 3,5 fois plus élevé que les 10% les plus pauvres. Et cet écart, Nikos, n'a pratiquement pas bougé depuis 20 ans.
Merci beaucoup Nicolas Barré. L'édito Écho, c'est tous les jours sur notre antenne à 7h10.
Et il est 7h13.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Matinale spéciale sur Europe 1 au lendemain de l'attentat commis hier soir à Strasbourg. Nico Saliagas avec vous en ligne depuis Strasbourg, le maire de la ville, Roland Ries.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Roland Ries, votre ville se réveille sous le choc ce matin. Évidemment, le tireur est toujours recherché. Est-ce que vous avez de nouvelles informations sur l'enquête?
Alors, en ce qui concerne le tireur, pour l'instant, il est toujours recherché. Il a failli être pris hier soir. J'ai rencontré des policiers qui l'ont, je dirais, aperçu. Mm-hmm. Mais il leur a tiré dessus et ils ont riposté, évidemment, mais... aucune des balles n'a
touché
son but et s'est volatilisé ensuite.
Voilà. Il aurait pu prendre la fuite pour l'Allemagne, nous disait tout à l'heure notre journaliste.
En principe, la frontière est fermée, mais évidemment, tout est toujours possible s'il a une voiture, ce que nous ne savons pas.
On parle d'un bilan provisoire, 3 personnes qui ont trouvé la mort. Combien de blessés, selon vos informations, monsieur le maire?
Une douzaine de blessés, dont la moitié en urgence absolue et l'autre moitié moins grièvement.
Qu'est-ce que vous dites ce matin aux Strasbourgeois qui partent travailler, qui se réveillent sous le choc et qui vont devoir circuler et prendre les transports en commun?
Alors, je vais m'adresser à eux en fin de matinée, 11h30, mais j'ai d'ores et déjà pris des dispositions pour que cette journée soit une journée de deuil. Mmh. C'est-à-dire que nous avons mis les drapeaux en berne, évidemment. Nous avons décidé de ne pas ouvrir le marché de Noël aujourd'hui, tout en maintenant le dispositif de sécurité qui est en place. Nous avons également décidé de fermer les écoles. En réalité, nous les laissons ouvertes pour l'accueil des enfants qui éventuellement ne pourraient pas trouver de solution pour cette matinée, ou peut-être dont les parents n'auraient pas été informés de ce qui se passait.
Il y a des familles en deuil ce matin qui ont perdu des proches. Est-ce que vous êtes dans l'accompagnement? Est-ce que vous avez une cellule psychologique? J'imagine que tout le monde est choqué à Strasbourg. Comment, en tant que maire, vous pouvez rassurer la population au-delà de l'information tout à l'heure à 11h, en fin de matinée, que vous allez partager avec les habitants de Strasbourg?
C'est évidemment mon rôle, effectivement, d'essayer de rassurer la population, mais je pense quand même aux victimes, aux trois victimes qui... ont été sauvagement abattus, je ne peux pas dire les choses autrement. C'est ce que la police municipale, qui était la première sur les lieux, m'a expliqué hier soir. C'était véritablement des scènes d'horreur. Donc je pense à ces familles de ces victimes, et je souhaite que Strasbourg face à la situation comme elle sait le faire lorsqu'elle est agressée. C'est mon rôle aujourd'hui de rassurer et de maintenir cette cohésion nécessaire dans ces circonstances difficiles.
Merci Roland Ries, maire de Strasbourg, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur l'antenne d'Europe 1 au lendemain d'un attentat qui a frappé votre ville hier soir. On le rappelle, bilan provisoire qui fait état de 3 morts, 12 blessés, dont 6 en urgence absolue. Le suspect, à l'heure actuelle, est toujours en cavale. Certains parlent d'une tentative de sa part de rejoindre l'Allemagne. On continue l'info matinale spéciale attentat à Strasbourg ce matin sur Europe
1. Il est 7h17.
Et dans quelques instants,
il est 7h19, les principaux titres de l'actualité à venir ce matin, Nico Saliagas.
La France passe en urgence attentat après l'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg. Bilan provisoire, 3 morts, 12 blessés, dont 6 en urgence absolue. 350 membres des forces de l'ordre mobilisés ce matin pour traquer le tireur. Un homme de 29 ans, fiché S, est condamné dans des affaires de droit commun. Social, pas de hausse des tarifs bancaires l'an prochain. Engagement des patrons des grandes banques reçu hier par Emmanuel Macron. Les grandes entreprises vont également être mises à contribution pour améliorer le pouvoir d'achat.
Europe 1. Il est 7h20, matinale spéciale sur Europe 1 au lendemain de l'attentat commis hier soir à Strasbourg. Nico Saliagas avec vous en ligne, Brice Hortefeux.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, député européen Les Républicains. Vous avez passé la nuit au Parlement européen. Vous étiez confiné, vous étiez beaucoup.
Les parlementaires ont été, comme la population strasbourgeoise, confinés dans le lieu dans lequel ils se trouvaient. Il y en avait qui étaient au Parlement européen. C'était d'ailleurs la majorité des députés qui sont élus, je le rappelle, dans 28 pays. Mmh. Et moi-même, avec d'autres députés, les Républicains, nous étions dans une brasserie strasbourgeoise à l'occasion du verre traditionnel de fin d'année de remerciement des assistants, des collaborateurs et des fonctionnaires. Manifestation qui devait durer trois quarts d'heure et qui effectivement s'est poursuivie puisque nous étions confinés.
Vous avez rencontré des Strasbourgeois, vous avez vu l'ambiance, vous avez été témoin justement de ce qui s'est passé hier soir d'une façon indirecte, j'imagine, mais que disent les gens sur place ?
C'était naturellement un temps d'abord de stupéfaction et puis ensuite un temps d'émotion et puis bien sûr de solidarité partagée avant que nous puissions rejoindre notre hôtel, et le mien d'ailleurs est dans le quartier du Pont du Corbeau et la rue des Orfèvres, c'est-à-dire là où s'est déroulé ce drame pour partie. Mais cela rappelle que nous devons être tous vigilants individuellement, collectivement, chaque citoyen. Et cela rappelle aussi que la France est un territoire qui est directement concerné, menacé, puisque cela fait plus de 26 attentats depuis 2012 qui se déroulent sur le territoire français. La France, pays source et pays cible tout à la fois.
Oui, on avait le sentiment que le danger terroriste était retombé en France et puis il y a eu cet acte commis hier soir à Strasbourg. En fait, depuis le début de l'année, ce sont 7 attentats qui ont été déjoués. Vous suivez encore l'actualité en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur. Vous avez des infos sur les potentiels attentats qui peuvent arriver en France ?
Par définition, comme citoyen, et puis ayant aussi exercé ses fonctions, ses responsabilités de ministre de l'Intérieur, bien sûr, je sais qu'il y a des attentats dans l'Union européenne, puisque l'Europe est ciblée, que la France est elle-même d'ailleurs le troisième pays au monde en termes d'attentats en dehors des zones de conflit. C'est dire combien nous devons être vigilants, mais en même temps, il ne faut pas oublier que les services de renseignement arrivent aussi à anticiper, puisque vous avez donné le chiffre depuis le début de l'année, mais si l'on fait une rétrospective un peu plus large, depuis 2013, c'est 55 attentats qui ont été déjoués sur notre territoire. Mais la France est... a un rôle et une situation qui est bien identifiée, puisque aujourd'hui, le tiers des résidents de l'Union européenne impliqués dans des filières djihadistes sont français, le tiers. Donc, il y a une situation particulière française.
L'homme est toujours recherché. Il a déjà été condamné en France et en Allemagne. Il a fait plusieurs séjours en prison. Il y a quelques années, il est fiché S. Et on dit aussi que près de 450 détenus radicalisés sortiront de prison d'ici 2019 quand ils auront purgé leur peine. C'est un vrai danger.
C'est un vrai sujet de préoccupation et de danger, puisque je dirais quasi mécaniquement, effectivement, plusieurs centaines de détenus pour des faits liés au radicalisme, au terrorisme, peuvent sortir. Et aujourd'hui, il y a aux alentours de 720-730 détenus directement pour des faits de terrorisme, mais il est exact qu'il y en a un certain nombre qui sont potentiellement... Mais vous savez, il y a aussi une évolution, c'est que on se tourne, quand il y a ces menaces d'attentats, on se tourne vers des milieux qui sont bien définis, et notamment vers des milieux salafistes. Il ne faut pas considérer que tout le salafisme est violent, mais il y a une partie du salafisme, à côté des quiétistes, une partie du salafisme qui est le salafisme djihadiste, qui peut être violent. C'était quelques centaines dans les années 90. Dans les années de 2004-2005, c'était aux alentours de 5 000. Et aujourd'hui, on estime que c'est entre 30 et 50 000. C'est dire l'évolution et donc la vigilance qui doit être absolument renforcée.
Merci Brice Hortefeux d'avoir été en ligne avec nous en direct de Strasbourg ce matin.
Europe 1, il est 7h24.
À suivre l'innovation du jour dans quelques instants avec Anissa Mbida. Vous êtes en direct sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Europe 1.
Joyeux Noël les filles! C'est quand même sympa de s'offrir des petits cadeaux entre nous.
Oh là là, pas encore un pull de Noël ou un roman à l'eau de rose. Oh, waouh, une bougie! Elles sont super bonnes, elle sera parfaite pour les fêtes. Hein.
Avec Ikea, faites vraiment plaisir à petit prix. Rendez-vous vite en magasin et sur Ikea.fr pour découvrir tous nos accessoires de décoration, comme la bougie parfumée Blomdoft à 5,99€. Ou sinon, faites plaisir en quelques clics avec notre e-carte cadeau Ikea.
Ikea!
Europe 1, il est 7h25.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anissa Mbida, Nikos Aliagas.
Anissa qui a encore un nouveau truc magique dans son chapeau. Oui, histoire, l'actualité est tendue, l'actualité évidemment on la suit non-stop. Jusqu'à 9h on vous donne tous les détails, Strasbourg, les gilets jaunes. Mais c'est vrai qu'on a aussi besoin de vos petites infos. Là vous allez nous parler d'un bonnet en laine qui pourrait protéger les skieurs aussi bien qu'un casque. Expliquez-nous Anissa, comment cela va-t-il se passer ?
C'est une super idée, c'est un bonnet souple en laine et en acrylique, mais en sandwich à l'intérieur, il y a un liquide un peu spécial qui est capable de durcir instantanément dès qu'on essaie de l'écraser. Si vous voulez jouer savant, on appelle ça un liquide non-newtonien.
Newtonien, ouais.
Donc, quand on le laisse tranquille ou qu'on le manipule tout doucement, bah, le bonnet reste tout mou, mais dès qu'on tape dessus, il devient instantanément aussi rigide que du plastique.
Mais pourquoi on en a fait un bonnet et on n'a pas mis du plastique ?
Eh bien, pour le look, Nikos. Hein, plein de snowboarders qui ne mettent pas de casque parce que ça bouge sur la tête, parce que c'est pas confortable, mais surtout parce que c'est pas cool, hein, c'est pas stylé.
Ah ouais,
et pourtant, hein, le casque au ski, c'est comme la ceinture de sécurité en voiture, ça évite la plupart des accidents mortels. Et bien avec ce bonnet, on pourra être stylé tout en restant protégé. On vous a mis des petites photos sur le hashtag Europe 1. Ça a été inventé par une start-up australienne qui s'appelle Anti-Ordinary.
Ça coûte combien ?
C'est autour de 150€, mais ça sera pas disponible tout de suite parce qu'ils attendent encore l'agrément de l'homologation comme casque. Donc c'est proposé uniquement aux écoles de ski et aux vendeurs d'accessoires pour qu'ils puissent le tester. Alors pour le moment, c'est utilisé pour les sports d'hiver, mais ça pourrait aussi être très utile pour les vélos, pour les trottinettes trottinette. Un petit bonnet tout mou, c'est quand même plus facile à ranger qu'un gros casque tout dur.
Merci Anissa Mbida. C'est l'innovation du jour. C'est tous les jours, justement, à 7h25 sur Europe 1. Bon réveil.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Suivi conso, conseil personnalisé, aide aux travaux. Aujourd'hui, EDF développe des offres et des services innovants pour vous aider à mieux consommer. Plus d'infos sur EDF.fr.
Dans 3 minutes, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite un point météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Monsieur Cabrol.
C'est pas chaud, hein?
Ah, il fait froid ce matin.
0 degré en banlieue parisienne, par exemple, et 4 degrés à Paris cet après-midi. Il en fait moins 1 à Lyon, il en fera 4 également dans le courant d'après-midi. Et il fait moins 5 à Mulhouse en ce moment.
Froid et maussade alors?
Alors, maussade pour une partie de la France, la Bretagne, l'Anjou, la Loire-Atlantique, le Poitou-Charentes, la Basse-Normandie, le Limousin, l'Auvergne, l'Occitanie, l'Aquitaine, dans toutes ces régions. Mais il y a même des petites pluies ce matin et elles vont perdurer une bonne partie de la journée parce que c'est une perturbation, comme l'on dit, une zone de nuages et de pluie qui vraiment se dirige à l'intérieur de la France. Mais elle n'avance pas, elle est bloquée par l'anticyclone.
Stagne.
L'anticyclone, il est en Scandinavie, alors il vient bloquer cette zone de pluie, de sorte que nous aurons presque du soleil, et même un temps agréable cet après-midi, sur Paris, sur le centre, la Lorraine, l'Alsace, le Nord, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, vous voyez, une bonne partie, la partie Est de la France, comme si on partageait la France en deux, comme une poire. Alors, à gauche de la poire, c'est de la pluie, à droite de la poire, c'est du soleil, ou en tout cas des éclaircies. Et dessous, là, l'endroit où il y a la queue, c'est la Côte d'Azur et la Corse. Et là, nous aurons les averses.
Merci Laurent Cabrol. Ce matin, matinale spéciale au lendemain de l'attaque terroriste en plein cœur de la ville de Strasbourg. Tout de suite, le journal de 7h30 présenté par Céline Kallmann.
Alors, il est 7h29.
Matinale spéciale qui continue ce matin au lendemain de l'attentat qui a frappé Strasbourg. Pour rappel, un homme de 29 ans a ouvert le feu sur la foule dans une ruelle en plein centre de la ville. Le bilan provisoire fait état de 3 morts, 12 blessés, dont 6 en état d'urgence absolue. Le 7-9 est consacré ce matin à cette triste actualité. Dans 10 minutes, il y aura Jean-Michel Apathy. 7h45, mon invité sera le juge antiterroriste Marc Trévidic. On viendra en détail sur cette attaque et plus globalement sur la menace terroriste qui pèse sur le territoire national. A tout de suite.
Mercredi 12 décembre aujourd'hui, il est 7h30.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal avec vous, Céline Kallmann, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. La France se réveille ce matin en urgence attentat après l'attaque survenue hier soir à Strasbourg. Un homme qui a fait irruption près du symbolique marché de Noël de la ville. Il a ouvert le feu, il était aussi en possession d'une arme blanche, fiché S. Il est activement recherché. On va y revenir dans un instant en détail avec Pierre Decossette. Le dernier bilan ce matin s'élève à 3 morts, 12 blessés, 6 en urgence absolue. Écoutez Cédric qui travaillait au moment de l'attaque dans un restaurant à proximité.
J'étais en train de faire la salle en haut, de nettoyer, j'étais situé au premier étage. Et puis en fait, j'ai une vue depuis les baies vitrées sur les arcades. Et j'ai entendu plusieurs détonations, 2, 3, 4 détonations. Et après, j'ai vu toute la foule crier et se déplacer vers la droite. Et là, j'ai compris et j'ai tout de suite crié à mon collègue qu'il fallait tout fermer, tout barricader. On a eu les bons réflexes, on s'est enfermé et on est resté, on est monté dans la réserve. On était 3 employés et 4 clients, donc 7 en tout. À ce moment-là, on ne savait pas exactement la situation, c'était flou. Et on sait juste que le mec était tout proche, on s'est vraiment enfermé dans le magasin, puis ensuite dans notre réserve. Du coup, on est resté, on s'est approvisionné comme on pouvait. On a attendu les consignes, voilà.
Cédric avec Arthur Mbaché, des mesures de confinement prises partout dans la ville et notamment dans la salle du Rhenus où des spectateurs assistaient à un match de basket. Le public a entonné la Marseillaise en hommage aux victimes. Voilà des mesures de confinement levées au fur et à mesure et peu après 2h du matin concernant les députés européens qui sont sortis escortés par la police.
Et à l'heure actuelle, Céline, on le disait, l'assaillant reste introuvable. La possibilité qu'il ait pris la fuite pour l'Allemagne n'est pas exclue, même si elle n'est pas confirmée.
Oui, bonjour Pierre Decossette du service police-justice d'Europe 1.
Bonjour.
Plusieurs centaines de policiers et de gendarmes recherchent bien évidemment activement le suspect.
Oui, une traque, une chasse à l'homme depuis bientôt 12 heures. On entend en ce moment les hélicoptères survoler la ville. 350 hommes sont engagés sur la partie qu'on appellera dynamique, police judiciaire, raid, BRI. Hier soir, tous ont tenté leur chance dans plusieurs appartements d'un quartier du sud de Strasbourg, le Neudorf, secteur dans lequel le suspect, blessé au bras, aurait été déposé par un taxi après les faits. Mais ils ont fait chou blanc. Et puis il y a les filtrages, plus statiques, avec l'hypothèse, effectivement, vous le disiez, d'une fuite en Allemagne, puisque le Rhin est à quelques kilomètres seulement. On est dans le bleu, autrement dit dans le flou, me disait cette nuit un haut responsable au ministère de l'Intérieur. d'ailleurs délicat de localiser ce fugitif de 29 ans, fiché S, qui se serait endurci en prison, délinquant connu dans des dizaines de dossiers par la police et qui, ça pose question, aurait dû être arrêté hier matin par les gendarmes, sauf qu'il n'était pas chez lui. Les militaires le cherchaient dans une affaire de tentative d'homicide sur fond d'extorsion. À son domicile, ils ont découvert une grenade défensive et un pistolet de petit calibre.
Alors Pierre, cette nuit, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a relevé le niveau d'alerte en France. On passe à l'urgence attentat. En quoi ça consiste ?
On ne peut pas faire plus dans Vigipirate, Céline. C'est le niveau déclenché après un attentat ou si les autorités ont connaissance d'un projet imminent. Beaucoup de mesures possibles. Christophe Castaner a annoncé des contrôles renforcés aux frontières et sur l'ensemble des marchés de Noël en France pour éviter tout risque de mimétisme, mobilisation plus forte aussi du dispositif Sentinelle. Tout ça est censé être provisoire.
Merci Pierre de Cossette du service police justice d'Europe 1 ce matin. Un conseil de défense restreint va être présidé par Emmanuel Macron à l'issue du conseil des ministres. Le chef de l'État qui a fait part de sa solidarité aux victimes et à leurs familles. Il n'y a pas d'école en maternelle et en élémentaire à Strasbourg ce matin, mais les enfants seront tout de même accueillis hein, si les parents n'ont pas de mode de garde. Aucun bus ni tram ne circule. Et puis je vous rappelle donc ce dernier bilan de l'attaque survenue hier soir à Strasbourg par un homme activement recherché, un homme fiché S. 3 morts, 12 blessés, dont 6 en urgence absolue.
Europe 1, il est 7h34.
Dans l'actualité également, les suites des annonces du président Emmanuel Macron pour répondre à la colère des Gilets jaunes.
Oui, le chef de l'État doit s'entretenir avec une centaine de grands patrons pour leur demander un effort. Hier, il a reçu les banques et les a invités à s'engager en faveur des ménages, ce qu'elles ont accepté. Olivier Samain.
Il n'y aura pas d'augmentation des tarifs bancaires l'année prochaine. C'est le premier engagement. Les banques qui avaient déjà publié leur nouvelle grille tarifaire ne les mettront donc pas en œuvre et celles qui n'avaient pas encore communiqué auprès de leurs clients ne feront rien. Deuxième engagement, pris hier soir dans le bureau d'Emmanuel Macron, les frais d'incident bancaire seront désormais plafonnés, pas plus de 25 euros par mois. La mesure vise les clients fragiles qui sont pris dans l'engrenage découvert, donc incident de paiement, donc frais pour anomalie de compte, donc aggravation du découvert, et ainsi de suite. Ça concerne 3 600 000 personnes qui se retrouvent parfois avec 4 à 500 euros de frais bancaires à payer par an. Le plafonnement permettra de réduire cette facture et ce sera une mesure pérenne, nous a indiqué hier soir l'Élysée. Au total, gel des tarifs bancaires plus plafonnement devrait permettre de restituer 5 à 600 millions d'euros de pouvoir d'achat aux ménages. Certaines sources parlent même de près d'un milliard. Par ailleurs, les banques ont promis de faire des offres préférentielles pour aider les Français à changer de chaudière ou de voiture.
Olivier Samain.
Autre dispositif présenté par le chef de l'État, la prime exceptionnelle.
Oui, une prime qu'un patron d'une PME toulousaine a déjà versée la semaine dernière à tous ses salariés. Benjamin Péter.
C'est en passant tous les jours devant des ronds-points occupés par des gilets jaunes que Laurent Aubel, le patron des couvreurs occitans, s'est demandé ce qu'il pouvait faire à son niveau.
J'avais un budget de 500 euros par salarié, puis il s'avère qu'avec les charges sociales, c'est plus que 250 euros qui arrivent sur le compte en banque, à peu de choses près. Ça m'a fait râler. Ça faisait un petit moment que je regardais ces gilets jaunes, que je regardais le mécontentement. J'ai dit, t'as qu'à virer cette prime, filer le montant des charges sociales aux salariés, tu leur donnes tout. Moi, mes gars, en tout cas, là, ils ont plus de pouvoir d'achat à l'instant T avec l'argent que j'ai mis sur leur compte en banque, c'est clair.
Il publie une vidéo sur Facebook, relayée plusieurs milliers de fois, et verse immédiatement l'intégralité de la prime à ses 39 salariés. Ce n'est que lundi soir qu'il a découvert que le président de la République avait eu la même idée que lui.
Incroyable. Quand effectivement il a dit que les entreprises allaient pouvoir faire une prime de Noël et qu'elles ne seraient ni fiscalisées ni chargées, j'étais vraiment très très heureux parce que c'est exactement ce que je demandais. Il y avait le risque qu'on me réclame cet argent parce qu'il était dû. Quand vous avez un budget de 500 euros par salarié, c'est pas 1000. Donc j'aurais risqué d'avoir des problèmes de trésorerie. Donc je vous cache pas mon soulagement effectivement à l'annonce de cette nouvelle. C'est sans doute le plus gros risque que j'ai pris en tant que patron.
Et ce qu'il souhaite maintenant, c'est que ce dispositif puisse être reconduit, par exemple juste avant l'été, comme un 13e mois allégé des charges sociales. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
En football, le PSG s'est largement imposé face à l'Étoile Rouge de Belgrade. 4-1 qualifié haut la main pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et les Parisiens qui finissent premiers de leur groupe.
Merci Céline Kallmann, c'était le journal de 7h30.
Europe 1. Et il est 7h37.
Jean-Michel Apathy plongé en pleine crise depuis plusieurs semaines. Voilà que la France est de nouveau frappée par un attentat ce matin.
Oui, c'est un attentat.
À quelques jours de Noël.
Absolument, donc c'est un attentat qui survient en pleine crise des Gilets jaunes. Et c'est un attentat qui perturbe d'ailleurs profondément, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, la stratégie des Gilets jaunes et leur manifestation prévue samedi.
Jean-Michel Apathy sur Europe 1, c'est juste après ça. À tout de suite, bon réveil.
7h-9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h39, Nico Saliagas, matinale spéciale consacrée à l'attentat de Strasbourg. C'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Jean-Michel Apathy, c'est un drame qui intervient dans un contexte politique très particulier, celui de la crise des Gilets jaunes.
Oui, les Gilets jaunes. Alors les Gilets jaunes ont prévu, il y a déjà des appels, de faire des manifestations samedi dans les grandes villes de France. Est-ce qu'on imagine ces manifestations non déclarées, non encadrées, qui vont susciter de la violence, puisque ça on l'a vu les jours suivants. Et est-ce qu'on imagine que ces manifestations se passent alors même qu'un attentat vient se produire sur le territoire français? On sait que quand un attentat se produit, il peut donner l'envie, hélas, à d'autres terroristes ou apprentis terroristes.
Castaner parlait de risque de mimétisme.
Bien sûr. Et donc quand il y a des foules dans les rues, quel danger, donc quelle irresponsabilité d'appeler à manifester. Les pouvoirs publics, pour tenter de faire face à ces manifestations, ont déployé la semaine dernière 90 000 policiers et gendarmes dans les rues des grandes villes de France. Et alors ils doivent procéder à ce déploiement aujourd'hui pour faire face à ces manifestations. Ils n'ont pas mieux à faire, les policiers et les gendarmes. Et puis, projetons-nous dans la journée de samedi. On imagine les CRS, l'arme au pied, attendant patiemment que des casseurs, parce qu'il y en aura, on le sait, on l'a vu, des casseurs, des gilets jaunes leur jettent des boules de pétanque, des marteaux à la figure. Quel symbole, quelle image après un attentat. Un observateur étranger qui verra ça dira mais ils sont totalement fous dans ce pays. Évidemment. Hier soir, sur Facebook, on a vu cette chose extraordinaire des gilets jaunes. Ils disent qu'ils sont gilets jaunes, donc ils doivent l'être puisqu'ils le disent. Dire mais attendez, tout ça c'est pas une manipulation. C'est pas les pouvoirs publics qui ont téléguidé d'une manière ou d'une autre le terroriste pour nous empêcher de manifester samedi. Quand on voit que des profondeurs de la société française montent ce type de complotisme, on en est quand même un peu effrayé. Alors il faut être exigeant ce matin. Parce qu'on a le droit d'être exigeant dans une démocratie. Et s'adresser aux leaders des Gilets jaunes. Ceux qui sont toute la journée sur les plateaux de télévision ou ceux que l'on invite sur les radios. Par exemple, Éric Drouet qui veut marcher sur l'Élysée. Eh bien que ces gens-là, par souci de responsabilité minimale, vraiment, appellent les Gilets jaunes à ne pas manifester samedi. À la fois parce que les forces de police ont mieux à faire, à la fois parce que les manifestants pourraient être en danger, ça n'est pas rien. Et puis aussi, on va le dire simplement, par simple décence, il ne faut pas que les Gilets jaunes manifestent samedi.
Jean-Michel Apathy, tous les jours sur Europe 1, 7h40, votre message est passé Jean-Michel.
Europe 1. Il est 7h42, votre matinale spéciale continue au lendemain de cet attentat qui a frappé la ville de Strasbourg hier soir. À suivre, Nico Saliagas.
Dans un instant, je serai en ligne avec l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. On va bien sûr revenir en détail sur cette terrible attaque, comprendre le mode opératoire, évoquer aussi et plus globalement la menace terroriste en France. Marc Trévidic est mon invité. Juste après ça, tout de suite, bon réveil.
Europe 1. Et les 7h42. Les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Plus de 11 heures après la fusillade qui a éclaté près du marché de Noël de Strasbourg, le tireur, un homme fiché S de 29 ans, est activement recherché par 350 policiers et gendarmes. Il était armé d'un couteau et d'une arme de poing. Il a fait feu sur les passants. Il a fait 3 morts, 12 blessés, 6 sont en urgence absolue. Emmanuel Macron va tenir un conseil de défense restreint à l'issue du conseil de ministres aujourd'hui. Et puis le gouvernement a porté le niveau du plan Vigipirate à urgence attentat, mis en place des contrôles renforcés aux frontières aussi et sur l'ensemble des marchés de Noël en France.
Europe 1. Nico Saliagas, matinale spéciale au lendemain de l'attentat de Strasbourg. Vous êtes en ligne ce matin avec l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic.
Bonjour Marc Trévidic.
Bonjour.
Vous êtes un homme informé. Qu'est-ce qu'on doit savoir que nous ne savons pas ce matin concernant cet attentat?
Oh, je pense que tout le monde est dans le bleu, donc personne n'est vraiment informé parce que c'est très atypique. C'est pas un attentat organisé avec des gens qui auraient voulu faire quelque chose sur le marché de Noël, parce que sinon ils l'auraient fait pendant que c'était ouvert d'ailleurs, et pas à la fermeture.
C'est un loup solitaire.
C'est quelqu'un qui était aux abois manifestement par rapport à ce qui s'est passé le matin et le fait qu'il se s'est recherché. Donc c'est quelque chose de vraiment atypique. Il n'est pas resté sur place pour mourir non plus. Donc si vous voulez, on n'a pas affaire aux terroristes habituels.
Le dernier attentat en France, Marc Trévidic, remontait au 23 mars 2018, hein, sous réserve. C'était dans le supermarché de Trèbes, dans l'Aude. C'était une illusion de croire que la menace terroriste s'était éloignée de notre pays.
Bah, c'est une illusion, mais d'un autre côté, c'est la force du terrorisme. Hein. Ça frappe de temps en temps, et la vie reprend ses droits. Les gens vivent normalement et pensent que c'est derrière eux, mais bon, c'est fatalement une illusion. C'est la force du terrorisme, ça nous surprend toujours. Si ça ne nous surprenait plus, et ben, ça serait beaucoup moins choquant. Donc il faut que les actions terroristes soient diluées dans le temps.
Le ministre de l'Intérieur parlait d'un risque de mimétisme. C'est un effet de style ou c'est un vrai danger?
C'est un vrai danger. répondre. Vous avez beaucoup de gens dans cette population très radicalisée qui est très instable. Ils peuvent passer à l'acte, c'est le passage à l'acte criminel, mais c'est encore plus vrai en cette matière. Pour rien, pour juste, voilà, parce que tout d'un coup, il y a le goût du sang, il y a quelque chose qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a des lois des séries en la matière.
C'est un acte, en tout cas, commis par un Strasbourgeois, quelqu'un qui est né à Strasbourg et qui est passé à l'acte alors qu'il n'y avait pas de contexte politique ou géopolitique aujourd'hui pour envenimer la situation.
Oui, c'est un local, parce que les gens qui, justement, basculent tout d'un coup, soudainement, pour une raison X ou Y, là, c'est sans doute parce qu'ils se sentaient acculés, on allait essayer de l'arrêter, on allait perquisitionner chez lui, se sentent acculés, passent à l'acte là où ils sont, si vous voulez. Contrairement à des terroristes qui s'organisent, qui choisissent une cible, qui peuvent venir d'ailleurs, quand c'est du terrorisme pulsionnel, c'est les locaux, généralement.
Quelle est la limite, justement, de la répression? Parce que c'est un garçon qui a été condamné en France et en Allemagne. Et il se serait fait remarquer en prison pour violence et prosélytisme islamiste. C'est-à-dire qu'en en prison, ça peut empirer?
En prison, en notre matière, ça a toujours empiré. C'est ça le problème. C'est bien pour ça que depuis quelques années, on commence à réfléchir, à faire des choses. Mais pendant des années, tous ceux qui sont passés en prison ont empiré. Des gens très violents sont devenus des gens violents et en plus radicalisés. Mmh. Alors ça ne crée pas la violence, la prison. Ce sont des gens qui sont déjà violents. Ils font des braquages, des tentatives d'homicide de droit commun. Et puis une fois radicalisés, ils sont toujours aussi violents. Mais en plus, il y a le front islam radical.
Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, Marc Trévidic, d'anticiper, de mettre en place suffisamment de sécurité, de gendarmes? Un attentat avait été déjoué il y a 18 ans à Strasbourg, un attentat important sur le mythique marché de Noël, vous en souvenez?
C'était au parquet antiterroriste.
Ben voilà. Est-ce qu'on peut anticiper réellement, ou c'est parfois c'est de l'enquête à long terme ou des coups de chance?
Alors, il faut savoir tout de même que les groupes djihadistes, il y a une tradition, il y a les gens ont de la mémoire. Souvenez-vous, le World Trade Center est tapé en 93, ça marche pas, on le fait en 2001. Le Bataclan apparaît dans les radars en 2009 avec un projet, et puis finalement ça se fait en 2015. Donc c'est vrai qu'ils ont de la suite dans les idées. Quand une idée comme ça d'attentat, ça reste ancré quelque part dans la mémoire collective salafiste djihadiste. Les cibles qui avaient été envisagées, il faut toujours faire attention. Oui.
Est-ce qu'il y a une filière djihadiste plus forte qu'ailleurs à Strasbourg?
Oui, il y a eu quand même un contingent de ceux qui sont partis en Syrie. Ils sont dans les villes qui ont fourni le plus d'effectifs. Oui.
On a oublié de vivre avec le terrorisme. On s'est dit que la vie avait repris son cours. Les auditeurs qui nous écoutent, que doivent-ils faire ce matin?
Les auditeurs qui nous écoutent, je pense qu'ils sont parfaitement lucides sur la situation et que ils ont compris que c'était pas fini, ils le savaient quelque part au fond d'eux. Il faut être prudent à cause de ce risque de mimétisme à court terme, et puis il faut savoir aussi qu'on a un risque d'attentat beaucoup plus organisé. Il ne faut pas croire que ce risque-là a disparu et qu'on n'aura affaire qu'à du terrorisme pulsionnel, frénétique, j'allais dire, comme celui-là.
Être prudent, apprendre à vivre avec. Près de 450 détenus radicalisés sortiront de prison d'ici l'an prochain. Et on se souvient que l'ex-procureur de Paris, François Molins, avait qualifié la situation de risque majeur. Vous en pensez quoi, vous, Marc Trévidic?
C'est un risque majeur parce que je suis sûr que nos services de renseignement ont la capacité de traiter autant de sorties à la fois. Si vous voulez, avant, les sorties étaient assez étalées, mais on en a mis tellement en prison d'un coup qu'ils vont finir leur peine à peu près en même temps. Effectivement, c'est une menace inédite. C'est vraiment un flot qui va sortir à quelques mois d'intervalle. Et là, c'est une question de capacité, en fait, de les traiter, de les suivre en renseignement, de voir s'ils se rangent ou s'ils préparent quelque chose. Ça demande beaucoup de monde. C'est ça le problème. C'est ça,
on a les moyens?
450, non. Je pense qu'on n'a pas vraiment les moyens, donc il faut se les donner. C'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça.
L'expertise de l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic ce matin sur Europe 1. Merci d'avoir choisi notre antenne pour vous exprimer.
Et vous pouvez également réagir à l'actualité en nous appelant au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h51.
À suivre le Zoom Echo avec Axel de Tarlé. Coup de tonnerre dans le monde syndical. La CFDT devient le premier syndicat de France devant la CGT. Et puis, dès le début du journal de 8h, à Strasbourg, matinale spéciale consacrée à l'attentat commis hier soir dans la capitale alsacienne. Le tireur est toujours activement recherché. Toutes les infos à retrouver avec David Doucan dans le journal de 8h. A tout de suite sur Europe 1.
7h, 9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h53 à l'heure du Zoom Echo, Nico Saliagas avec Axel de Tarlé.
Une page se tourne dans l'histoire du syndicalisme français. Pour la première fois, Axel, la CFDT devient le premier syndicat de France devant la CGT.
Oui, ça n'était jamais arrivé depuis la création de la CGT en 1895. Donc hier, les résultats des élections professionnelles sont tombés dans la fonction publique. Alors attention, la CGT reste toujours en tête dans le secteur public, mais elle recule, si bien que si on fait la moyenne secteur public plus secteur privé, eh bien c'est la CFDT qui arrive en tête. Et ça, ça n'était jamais arrivé. Alors c'est là la victoire d'un syndicalisme dit réformiste, une force de proposition, et qui peut effectivement, la CFDT, se targuer d'avoir obtenu des résultats très concrets comme la complémentaire santé dans le secteur privé, comme le compte pénibilité ou même les 35 heures. A l'inverse, bien sûr, c'est une claque pour la CGT qui, c'est vrai, elle ne peut pas se targuer d'avoir obtenu de tels résultats par la confrontation. On le voit bien, les grandes manifs à la SNCF ou contre la réforme des retraites ne servent plus à rien. Alors que, humiliation suprême, les Gilets jaunes, eux, viennent d'obtenir par la violence pour 10 milliards de mesures sociales. Donc oui, beaucoup se demandent aujourd'hui à quoi sert la CGT.
Qu'est-ce que ça veut dire pour le gouvernement que la CFDT est une bonne nouvelle ?
Oui, alors bien sûr, c'est une bonne nouvelle, cette victoire de la CFDT, une bonne nouvelle pour faire la réforme de la fonction publique, pour faire la réforme des retraites. Je vous rappelle d'ailleurs que la retraite par points d'Emmanuel Macron, à la base, c'est une revendication, figurez-vous, de la CFDT. Mais, Nikos, ne nous y trompons pas, ça n'est pas la CFDT qui progresse, c'est la CGT qui recule et tout le syndicalisme en général. D'ailleurs, pour la première fois lors de ces élections professionnelles, moins d'un fonctionnaire sur deux s'est déplacé pour voter. On voit bien là le délitement dont on parle, des corps intermédiaires, des syndicats pourtant bien utiles pour canaliser la colère des travailleurs. Écoutez, c'est vrai qu'on a tous réalisé en creux, au cours de ces 4 dernières semaines, la qualité et l'efficacité du service d'ordre de la CGT, capable, elle, d'organiser des manifestations monstres avec 1 million de personnes dans la rue, sans aucun débordement, ni vitrine brisée, ni voiture qui brûle. Rien que pour ça, chapeau la CGT.
Merci Axel de Tarlé pour le Zoom Echo quotidiennement sur Europe 1. Et à propos de la fusillade meurtrière qui s'est déroulée hier soir sur le marché de Noël à Strasbourg, dernier bilan, 3 morts, 8 blessés graves, 5 blessés légers, des sources, une information qui nous a été fournie par la préfecture.
Il est 7h55, on retrouve Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire du jour.
La petite histoire ce matin, vous savez quoi Jean-Philippe Ballas, vous allez nous parler de la première ministre britannique Theresa May. Elle a du mal à s'en sortir et dans tous les sens du terme.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un petit moment de solitude, un de plus pour Theresa May. La voici hier à Berlin, rendez-vous avec Angela Merkel sur fond de énième crise du Brexit. La chancelière attend sur le tapis rouge devant une flopée de caméras, une limousine noire s'arrête, une employée du protocole approche. Et là, les ennuis commencent. La jeune femme tire sur la portière. Une fois, deux fois, trois fois. Non, manifestement, la portière ne veut pas s'ouvrir. Theresa May est bloquée à l'arrière de sa voiture. Aïe. Allégorie, quand tu nous tiens. Et voici quelques secondes de flottement qui semblent une éternité en direct à la télévision. Un garde du corps, évidemment embarrassé, regarde le chauffeur sur le thème. Dis donc, t'aurais pas laissé la sécurité enfant à l'arrière ? À moins que ce soit Theresa May elle-même qui joue la montre. Non, non, je veux pas y aller. Puis enfin, le soulagement, on ouvre cette satanée portière, léger sourire crispé de circonstances. Est-il besoin de préciser, les amis, que la presse britannique s'en est donnée à cœur joie ? En résumé, comment espérer sortir correctement de l'Union européenne quand on a déjà du mal à sortir d'une voiture ? Bref, blocage à tous les étages. Et vous savez quoi ? Moi, quand la Grande-Bretagne ferme la porte, je pense toujours à cette chanson de McCartney qui demande qu'on l'ouvre.
C'est la période Wings.
Absolument.
Les ailes, il en faudrait peut-être pour Theresa May, pour nos amis britanniques. Jean-Philippe Ballas, la petite histoire pour regarder l'actualité autrement. C'est tous les jours avant 8h sur Europe 1.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Le ciel a-t-il des ailes ?
Oui, des ailes.
Des ailes, je veux dire, est-ce que ça souffle ? Est-ce que les nuages partent ? Est-ce qu'il y a du soleil ? En tout cas, il fait froid ce matin.
Oui, il fait froid. Et puis nous avons effectivement un temps qui est quand même bien agréable pour beaucoup d'entre nous, hein, notamment la région parisienne, la Champagne-Ardenne, la Haute-Normandie, la Picardie, sont des régions où les éclaircies vont s'imposer très largement. Le nord aussi, le centre, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, le Languedoc, la Provence, autant de contrées où nous aurons majoritairement des éclaircies. En revanche, la pluie est arrivée depuis cette nuit, elle est arrivée sur les côtes atlantiques et elle progresse. Alors elle va s'arrêter au fur et à mesure qu'elle avance puisque l'anticyclone est en train de la bloquer. Elle va s'arrêter sur des départements comme la Manche, la Touraine, le Cher, l'Ardèche, le Rhône, le Gard et l'Hérault qui sont les départements limitrophes entre la zone de pluie et la zone d'éclaircies. Et donc ces départements auront le ciel le plus souvent couvert. Voilà pour la France, si quand même les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, je vais dire, voilà pour les températures. Nous allons passer maintenant au thermomètre. Regardez bien, chers amis, ce matin, ce thermomètre entre moins 5 et plus 5 degrés. Et dans l'après-midi, 1 degré à Langres, 2 à Belfort, 3 en banlieue parisienne, 4 à Lille, à Lyon et dans la capitale, intramuros, 5 à Bourges, 7 à Nantes, 11 à Toulouse et 13 à Marseille.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce mercredi 12 décembre. Il est 8h, bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
À 8h15, Audrey Crespo-Mara recevra le maire de Nice, Christian Estrosi. Tout de suite, le journal avec David Doucan. Bonjour.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin, David.
La France est à nouveau endeuillée, frappée cette fois à Strasbourg. Une attaque à l'arme à feu hier soir dans le centre-ville, sur le marché de Noël. Le bilan provisoire est de 3 morts, 13 blessés, dont 8 sont dans un état grave. La police suspecte un homme qui a pris la fuite. Il est à cette heure activement recherché. 350 policiers et gendarmes sont à ses trousses, aidés par 2 hélicoptères. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Et vous aurez toutes les informations dont nous disposons sur le profil de cet assaillant présumé. Il était fiché S, condamné à de multiples reprises pour des méfaits de droit commun, radicalisé en prison. Alain Accot, le chef du service police-justice d'Europe 1, est avec nous dans ce studio.
Europe 1.
Le drame a débuté à 19h50. Un homme s'est mis à tirer à l'arme à feu sur des passants dans le centre-ville de Strasbourg, sur le marché de Noël. 3 personnes ont été tuées, 13 autres blessées, dont 8 sont dans un état grave selon la préfecture du Bas-Rhin. L'assaillant a échangé des coups de feu avec des soldats de Sentinelle. Il a malgré cela réussi à s'enfuir. Rejoignons immédiatement sur place Arthur Mbaché. Bonjour Arthur.
Bonjour David.
L'urgence, Arthur, pour les autorités, c'est bien sûr maintenant de le retrouver et de le neutraliser.
Oui, après le choc de l'attaque, il y a aussi à présent l'angoisse de la traque, David. La traque qui se poursuit 12 heures après l'attentat. Une chasse qui a commencé dès hier soir, ici en plein centre, avec ce moment où l'auteur des coups de feu croise des militaires de Sentinelle qui le blessent au bras sans parvenir à l'arrêter. Un des soldats est également blessé, lui, à la main. Ensuite, à proximité, nouveaux échanges de tirs, confrontation avec les forces de l'ordre. C'est à ce moment-là, à peu près, David, que j'ai vu passer à l'entrée du centre-ville une camionnette de la police avec images impressionnantes, assez terrifiantes en fait. Couché à plat ventre sur le toit de la camionnette, un policier tenant un fusil. Puis, plus tard, opération de police à Neudorf, quartier situé au sud du centre-ville, pour essayer d'interpeller le suspect manifestement chez lui. Ça, c'était vers 21h. Et depuis, eh bien, on aperçoit, on entend les 2 hélicoptères qui parcourent le ciel strasbourgeois, qui épaulent la centaine d'enquêteurs de la PJ, plus le RAID, plus la BRI, ce qu'on appelait l'anti-gang, plus les soldats du dispositif Sentinelle. 350 personnes mobilisées, nous a dit le ministre de l'Intérieur cette nuit. Il y a, dit Christophe Castaner, des contrôles aux frontières renforcés, évidemment, sur les ponts qui franchissent le Rhin tout près d'ici.
Merci Arthur Mbaché pour ces dernières informations.
Et on en sait davantage, David, sur le profil du fugitif.
Oui, au regard des faits, c'est la section antiterroriste du parquet de Paris qui s'est saisie de l'enquête. Bonjour Alain Accot.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service police-justice d'Europe 1. On sait qu'on est face à un homme qui s'est radicalisé en prison. Et fiché S.
Oui, s'il a été fiché S il y a 2 ans par la DGSI, c'est justement à cause
de son comportement en prison à cause de son prosélytisme religieux qui a attiré l'attention des agents du renseignement pénitentiaire. Jusqu'alors, ce Strasbourgeois de 29 ans, né de parents originaires d'Afrique du Nord, était exclusivement connu pour des faits de droit commun. Son nom apparaît d'ailleurs une soixantaine de fois au fichier des antécédents judiciaires pour vol, violence, dégradation, outrage. Il a d'ailleurs déjà été condamné plusieurs fois en France, mais aussi en Allemagne, où il n'est pas exclu qu'il ait pris la fuite.
Merci Alain Acco, vous restez avec nous dans ce studio. Lorsque vous parlez de prosélytisme religieux, on sait s'il s'agit d'un prosélytisme islamiste ?
Oui, bien sûr.
Revenons maintenant sur le déroulé de cette attaque. Bonjour Aude Vernuccio.
Bonjour David.
Tout a commencé à 19h50 en plein centre-ville de Strasbourg sur le marché de Noël, c'est bien cela ?
Oui, tout commence dans la rue des Orfèvres, une petite rue étroite à quelques mètres seulement de la cathédrale de Strasbourg. Des coups de feu éclatent de chez lui. Arsène découvre une scène d'horreur.
J'ai entendu d'abord des coups de feu en fait, mais je me suis dit au début que c'était juste des pétards ou un bruit du quotidien. Ensuite j'ai entendu des gros cris. J'ai assez rapidement fait le lien avec le marché de Noël et j'ai été voir ma fenêtre directement. À ma droite, je vois un corps allongé, une famille autour avec une femme et deux ou trois enfants en très bas âge, et bah, des gens qui courent partout dans la rue, la panique quoi. Forcément, je suis choqué, la première fois que j'ai quelque chose d'aussi violent de ma vie.
Plusieurs personnes sont blessées. Le tireur poursuit son chemin vers la place Kléber, connue pour son immense sapin de Noël et ses petites cabanes en bois où l'on sert du vin chaud. À nouveau, des coups de feu retentissent, comme le raconte Maurice.
J'avais mon casque sur les oreilles, je marchais pour aller à la salle de sport. J'ai vu et entendu des impacts sur le coin du mur devant moi. J'ai compris que c'était des coups de feu. Et du coup, là, j'ai couru dans l'autre sens. Enfin, il y a eu une sorte de mouvement de foule. Tout le monde s'est mis à courir à l'opposé des coups de feu. Ça, c'était dans ma rue. Là, j'ai dit à tout le monde que j'habitais ici. Et j'ai ouvert la porte et après, on est monté se mettre à l'abri.
Pendant plusieurs heures, bars, restaurants, commerces, tout est bouclé jusqu'au Parlement européen où les députés sont confinés. L'assaillant, lui, a déjà pris la fuite en s'engouffrant dans un taxi. Il a apparemment été blessé au bras pendant la fusillade.
Un rappel des faits signé Aude Vernuccio. Merci Aude.
Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place hier en tout début de soirée.
Oui, et il a tenu une conférence de presse en pleine nuit dans laquelle il a annoncé le passage de Vigipirate au niveau urgence attentat. Je me tourne à nouveau vers vous Alain Acco parce que cela surprendra sans doute nos auditeurs, mais les gendarmes étaient au domicile de cet homme hier matin, pour une perquisition. Est-ce que, Alain, cela a pu avoir un rôle de déclencheur ?
C'est très possible. Les gendarmes ont en effet débarqué chez lui dans le cadre d'une enquête pour tentative d'homicide dans laquelle il pourrait être impliqué cet été. Une affaire de racket sur fond de contrefaçon. Quatre autres personnes ont d'ailleurs été interpellées dans ce dossier. Hier matin, lui n'était pas à son domicile. On y a trouvé une grenade et un pistolet automatique. Alors, est-ce que c'est cela qui l'a poussé à l'acte ? Cela, c'est déjà vu. Cela s'était déjà vu notamment avec l'auteur de l'attentat de Trèbes en mars dernier, qui avait été convoqué le jour même par la DGSI. Et au lieu de se rendre à sa convocation, il était passé à l'acte, on s'en souvient. Et puis l'année dernière, même en juin 2017, sur les Champs-Élysées, rappelez-vous, cet homme qui avait voulu se faire sauter en se faisant exploser contre un camion de la gendarmerie, il n'avait que lui qui avait été tué, mais il était lui aussi convoqué pour l'entretien administratif par la DGSI. Et au lieu de s'y rendre, là encore, il était passé à l'acte.
Et afin que nous soyons totalement complets, Alain, d'un mot, lorsque le ministre de l'Intérieur dit qu'on passe en niveau urgence attentat, qu'est-ce que cela signifie précisément ?
C'est normal après la commission de l'attentat ou quand on croit qu'un attentat va se commettre d'une manière imminente. C'est un renforcement des contrôles, par exemple, un petit peu partout, aux frontières, on en a parlé il y a un instant, mais ça peut être aussi autour des marchés de Noël. Oui. On craint en effet un effet de mimétisme, mais il peut y avoir aussi des contrôles dans les transports en commun et notamment dans les trains.
Merci Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1 pour toutes ces informations.
Bilan de cette attaque terroriste provisoire, 3 morts, 13 blessés, dont 8 graves. Une attaque qui intervient alors que le mouvement des Gilets jaunes continue, David Doucan.
Oui, et d'ailleurs le préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté interdisant les manifestations qui étaient prévues aujourd'hui pour permettre aux forces de l'ordre de se mobiliser totalement dans les opérations de recherche. Les Gilets jaunes occupaient hier encore un certain nombre de sites routiers à Strasbourg.
Europe 1.
À suivre dans le journal, nous serons à nouveau avec l'un de nos envoyés spéciaux à Strasbourg, une ville qui se réveille sous le choc. A tout de suite.
Europe 1.
Il est 8h08, votre matinale info, Nico Saliagas.
Et dans quelques minutes, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera Christian Estrosi, le maire de Nice, qui avait dû faire face à l'attaque terroriste du 14 juillet 2016.
Nous retournons maintenant à Strasbourg qui se réveille en deuil. Plusieurs cellules psychologiques sont ouvertes. Un numéro de téléphone d'information au public a été mis en garde. Je vous le communique, le 0811 000 667. Je le répète, 0811 000 667. La mairie a décidé qu'il n'y aurait pas cours aujourd'hui dans les écoles maternelles et primaires, même si les enfants seront quand même accueillis pour les parents n'ayant pas de solution de garde. Rejoignons maintenant l'un de nos envoyés spéciaux, Mathieu Bock, sur place. Bonjour Mathieu.
Bonjour David.
Vous êtes depuis ce matin au contact des Strasbourgeois qui se rendent au travail. On imagine qu'ils sont toujours sous le choc.
Oui, les habitants que j'ai rencontrés ce matin partent travailler le cœur lourd, emmitouflé dans leur veste pour se protéger du froid. On est en dessous de zéro ici à Strasbourg et ils craignent qu'une ambiance pesante ne s'abatte sur la ville alors que ce mois de décembre devrait être une fête.
C'est terrible parce que c'est quand même un moment de paix. On se dit Noël, c'est quand même... Et puis là, on attaque un beau symbole, de la joie, du bonheur. Et on brise ça d'un coup, c'est violent quoi. Ça fait mal.
Je suis un peu troublé parce que je sais qu'ils ne l'ont toujours pas trouvé et que la situation va perdurer. Et j'ai peur qu'on retourne dans un cycle où on réimpose un contrôle aux frontières, où j'ai déjà vécu le précédent, où c'était très très compliqué, où j'ai eu l'impression de jamais en sortir.
On ressasse, on revoit les images qui ont été relayées par les réseaux sociaux. On a des amis qui nous ont appelés, qui étaient en ville. Donc ouais, difficile.
Alors la vie reprend presque normalement ce matin, les transports en commun fonctionnent à nouveau alors qu'hier soir ils avaient été purement et simplement arrêtés, laissant des habitants livrés à eux-mêmes un peu partout en ville en pleine nuit. Mais comme pour rappeler ce qu'il s'est passé ici hier soir et que le suspect est toujours en fuite, le marché de Noël, lui, sera fermé toute la journée.
Merci Mathieu Bock, vous étiez en direct de Strasbourg pour Europe 1. Parmi les multiples réactions, je vous livre celle de la présidente du Rassemblement National. Sur son compte Twitter, Marine Le Pen a parlé, je cite, d'une tuerie islamiste et elle appelle à un changement radical de la politique contre le terrorisme. Elle vient d'ajouter avoir le sentiment que tout n'est pas fait dans la lutte contre le terrorisme.
Et pendant ce temps, nous l'évoquions depuis ce matin, le mouvement des Gilets jaunes continue.
Oui, malgré les annonces d'Emmanuel Macron, les appels à manifester pour un acte 5 du mouvement samedi prochain continuent de prospérer sur les réseaux sociaux. Ils ont été lancés avant l'attaque dont nous vous parlons à Strasbourg. Donc nous verrons s'ils sont maintenus et s'ils continuent à recevoir beaucoup d'adhésions. Même Laurent Wauquiez, le leader des Républicains, pourtant en soutien des Gilets jaunes, leur a demandé de ne pas manifester le week-end prochain, mais rien n'y fait. Résultat, les autorités et les commerçants s'inquiètent un peu partout en France. Par exemple à Bordeaux, qui a subi de nombreux dégâts samedi dernier. Stéphane Place.
Des bouts de verre qui traînent encore sur la chaussée, noircis par l'embrasement des barricades, des distributeurs de billets détruits et que des techniciens sont en train de remplacer. Le cours Victor Hugo pense ses plaies, mais ce buraliste, dont la vitrine a été fendue, redoute le retour des casseurs le week-end prochain.
Ça va se reproduire, ils en parlent déjà. Le samedi prochain, je vais être là, et je reste devant mon commerce, je ne vais pas laisser faire.
Dans une rue adjacente, cet autre commerçant a surpris des conversations inquiétantes en début de semaine.
Il y a des irresponsables qui en permanence se mettent de l'huile sur le feu. Donc on entend des choses parmi des gens comme quoi ils vont venir avec des marteaux tout cassés, etc. Et certains faibles d'esprit avaient l'air déjà d'être bien excités et dire que cette fois-ci, c'était lundi matin, j'en ai entendu 4 là-bas. On essaye de faire le maximum aujourd'hui pour préparer le magasin. Et puis après, de toute façon, nous allons subir. On a une façade bois et des stores qui peuvent prendre, donc c'était un peu le danger. Donc les extincteurs sont vérifiés. Ils ne sont pas rangés là où ils étaient.
Vous les avez mis plus près?
Bien sûr, on fait attention.
Juste à côté, dans son magasin de vêtements, Magali reste elle aussi marquée par le déchaînement de violence du week-end dernier.
Une grosse trouille, mais on va être plus vigilant. Mais plus tôt, je pense. Pas de risque.
Et les dégâts du week-end dernier viennent d'être estimés à au moins 500 000 euros par la municipalité bordelaise. Bordeaux, Stéphane Place, Europe.
Et concluons, Nico, si vous le voulez bien, ce journal avec un résultat de football.
Ouais, les... Une note positive.
Une note positive. Les Parisiens ont gagné hier soir 4-1 face à Belgrade lors du dernier match du premier tour de la Ligue des Champions. Ils sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale.
C'était le journal de David Decor, le journal de 8h sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h13, votre matinale spéciale continue avec Vincent Herouet pour l'actualité internationale, Nikos.
3 morts, 13 blessés, dont 8 graves à Strasbourg, et c'est le retour du terrorisme.
Oui, le retour du terrorisme qui tire dans le tas, mais pas tout à fait à l'aveugle. Il tue n'importe qui, mais en ciblant un symbole. Avec le marché de Noël à Strasbourg comme à Berlin, une fête chrétienne est visée. Comme à Nice, un 14 juillet, c'était la fête nationale. À chaque fois, une fête et une tradition, c'est-à-dire ce qui rassemble et enracine, distingue un peuple et fait sa force. Le terrorisme cherche à sidérer pour soumettre. Cette menace islamiste n'a jamais cessé, même si elle n'obsède plus. Et c'est même le contraire. Cet attentat est le troisième de l'année. mais il faut une tuerie pour qu'on reparle des revenants qui ne reviennent plus, des sortants, ceux qui ont purgé leur peine, de ceux qui se radicalisent dans leur coin et des réseaux qui dorment, pour qu'on s'interroge sur les fichiers S, qui ont l'air de s'en ficher pas mal, sur le mélange des gens entre voyous et terroristes, sur les armes en circulation, et avec toujours l'impression d'un jour sans fin, d'une émission spéciale sans cesse renouvelée. Alors, la France est le pays d'Europe qui a été le plus touché par le terrorisme lié à la guerre en Syrie et en Irak, mais on ne parle plus de la Syrie et de l'Irak. La France est engagée dans la plus longue guerre de son histoire moderne. Personne n'imagine que son armée quitte le Sahel avant 10 ou 15 ans. Mais qui s'intéresse à la situation au Mali, au Burkina ou au Niger?
Mais l'État islamique a été vaincu, Vincent Hervouet.
Oui, et pour célébrer l'anniversaire de cette victoire, avant-hier, lundi, c'était le jour férié en Irak. Le pouvoir a ouvert la zone verte où il est retranché à l'abri des attentats aveugles. Mais dès hier, le pont-levis était relevé et les blindés barraient de nouveau les rues. En Syrie, les djihadistes sont dos au mur dans la province de Deir ez-Zor, mais ils continuent de lancer des contre-attaques contre nos alliés kurdes. En Afghanistan, Daesh s'est taillé un vrai fief du côté de Jalalabad. Trois pays condamnés à la guerre à perpétuité car aucune solution politique n'est en vue. L'État islamique est sans doute à l'agonie, mais le djihad a de l'avenir. La France va rester une ligne de front, l'ennemi à soumettre, un objectif à conquérir.
Vincent Hervouet sur Europe 1 tous les matins pour le Point de vue international.
Europe 1.
Il est 8h15.
Dans deux minutes, l'interview politique avec vous, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Nikos.
Bonjour.
La France en urgence attentat, c'est le retour des attaques à Strasbourg près du marché de Noël. Lui, sa ville de Nice était endeuillée il y a 2 ans et demi, le 14 juillet. Christian Estrosi, maire de Nice, sera mon invité.
A tout de suite.
7h-9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 8h17, Nikos Aliagas.
Le maire de Nice, monsieur Christian Estrosi, et votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Christian Estrosi.
Bonjour.
La France en urgence attentat. Il y a 2 ans et demi à Nice, vous vous êtes rendu sur la promenade des Anglais, juste après l'attentat. L'attaque d'hier soir à Strasbourg réveille forcément des souvenirs douloureux.
J'ai eu une émotion si profonde lorsque j'ai appris cela. J'ai appelé et j'ai fait savoir à Roland Ries que vous receviez ce matin.
Le maire de Strasbourg.
Tout de suite, que j'étais aux côtés des Strasbourgeois, des Alsaciens. Je l'ai dit à mon ami Jean Rotner, le président de la région. Forcément, il faut avoir vécu cela pour comprendre la souffrance à la fois des familles, à la fois de la population, leur dire leur compassion, notre compassion, c'est essentiel. Et en même temps, dire que face à un tel mouvement, je suis Strasbourg, je suis Nice, Nice et Strasbourg, et j'imagine que ce matin, la France entière est Strasbourg.
2 ans après Nice, Strasbourg est donc à son tour endeuillé. Après la promenade des Anglais, le marché de Noël. À travers ces lieux symboliques, c'est bien sûr la France qui est visée.
Mais à chaque fois, Daesh et le terrorisme, les barbares, choisissent des lieux symboliques. Charlie Hebdo, le Bataclan, la promenade des Anglais. Aujourd'hui, un des plus merveilleux marchés de Noël qui soit en France et en Europe avec Strasbourg. Donc la cible était parfaitement identifiée.
On avait oublié que la France est en guerre.
J'ai rappelé à un certain nombre de vos confrères ces derniers jours, dont un de chez vous, qu'au milieu du mouvement que nous connaissons, où 90 000 forces de l'ordre sont mobilisées.
89 France, 000 dans toute la France.
La France est en guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons à faire face à la fois à cette guerre où les services de renseignement, où la police doit être de toutes les attentions par rapport aux menaces, aux attentats qui sont déjoués grâce à leur mobilisation toutes les semaines, et en même temps être mobilisés sur les manifestations qui, pour certaines d'entre elles, malheureusement, ont donné lieu à des pillages et des exactions.
Faut-il décréter, Christian Estrosi, une trêve sociale pour préserver l'unité nationale, pour ne pas affaiblir l'État et ses forces de l'ordre davantage face à la menace terroriste?
Vous savez, je fais partie, contrairement à ceux qui ont essayé de récupérer le mouvement, de s'habiller en gilet jaune, de l'instrumentaliser politiquement, et notamment chez les extrêmes, de ceux qui ont dialogué, de ceux qui ont compris, de ceux qui ont partagé, de ceux qui ont défendu un certain nombre de revendications qui me paraissaient légitimes de la part d'une immense majorité de gilets jaunes qui sont pacifiques. Mais face à la menace que nous connaissons aujourd'hui il me paraît urgent de suspendre ce mouvement, je dis bien de suspendre, ce qui n'empêche pas de continuer sous d'autres formes le dialogue. Nous sommes en période de fête de fin d'année, il y a des dangers importants que court notre pays, que courent les Françaises et les Français, le devoir des forces de l'ordre qui sont épuisées.
Vous pensez qu'elles peuvent tenir le coup? Elles sont épuisées après ces trois semaines de crise des Gilets jaunes.
Que on continue jour après jour à avoir 90 000 forces de l'ordre épuisées, qui soient à la fois rivées sur les menaces que nous connaissons et il peut y avoir d'autres tentatives d'attentats depuis d'ici la fin de l'année, et en même temps faire face à ce mouvement de casseurs, d'extrémistes qui ne cessent de monter de semaine en semaine, eh bien j'appelle à la responsabilité de chacun. Ce mouvement ne peut que se grandir si le mouvement des Gilets jaunes ne peut que se grandir, si lui-même appelle à cette même responsabilité.
Christian Estrosi, Emmanuel Macron doit-il interdire le rassemblement de samedi sur les Champs-Élysées?
Mais je pense que c'est une exigence que, de dire que là où il y a ces lieux stratégiques, qui sont aussi des symboles de la République, que ce soit ici ou que ce soit en d'autres lieux, tous les responsables publics, politiques, disent qu'il ne peut pas y avoir un acte 5 samedi qui fasse prendre des risques, qu'après Strasbourg, chacun doit être mobilisé, mais que parallèlement à cela, les discussions pacifiques puissent continuer avec les Gilets jaunes.
On a constaté que des groupes d'ultra-droite se mêlent aux Gilets jaunes. Après l'attaque de Strasbourg, craignez-vous que leur colère ne se tourne contre des musulmans, comme ça a pu être le cas contre des migrants sur certains barrages?
Mais c'est à la fois contre des musulmans, contre d'autres aussi. Nous savons aujourd'hui que l'ultra-droite, comme ceux qui se reconnaissent dans un mouvement qui méritait pour eux politiquement, démagogiquement, d'être exploité, d'instrumentaliser ces gilets jaunes qui, eux, sont des hommes et des femmes parfaitement pacifiques. C'est pour ça qu'ils doivent aussi les tenir à l'écart. Eh bien, nous ne pouvons pas les laisser continuer à être infiltrés comme ils l'ont fait ces derniers temps, avec les risques que ça peut poser en matière de racisme, de pillage, de xénophobie et d'autres actes qui incitent à la violence.
Christian Estrosi, l'assaillant est né en France, il est de nationalité française. Ça confirme que même si Daesh est vaincu, le djihadisme reste une menace intérieure.
Mais Daesh n'est pas vaincu.
C'est ce que dit Gilles Kepel pour l'étranger en tout cas. Et ça reste une menace intérieure.
Oui, mais plus Daesh est vaincu à l'extérieur, et plus Daesh va mener la guerre à l'intérieur de nos grandes démocraties.
L'assaillant est fiché S. Hein.
Vous savez,
fiché S, radicalisé, surveillé pour sa proximité avec les milieux islamistes de sa région.
Oui, mais j'étais la semaine dernière en Grande-Bretagne auprès des services de renseignement et de police britanniques. Les menaces sont identiques chez eux, après le pont de Londres et le pont de Winchester, à ce qui s'est passé à New York, ce qui s'est passé sur le marché de Berlin il y a 2 ans. Aujourd'hui, la menace est à son niveau le plus élevé, il faut le savoir, justement parce que Daesh a été vaincu à l'extérieur.
Vous avez accès au fichier S en tant que maire, non?
Cette question est très légitime de votre part, je vous en remercie, parce que le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils étaient décidés à donner les noms et les adresses des fichiers S résidant sur leur lieu de leur commune. J'ai abordé le débat avec mon préfet. Pour l'instant, tel n'est pas le cas. Donc, avec ce qui se passe à Strasbourg aujourd'hui, je dis que c'est urgent, surtout lorsqu'il y a des communes comme la mienne qui disposent de logiciels intelligents pour pouvoir détecter comment se déplacent les fichiers S sur le territoire de leur commune et ainsi pouvoir mieux prévenir un certain nombre de provocations qui constituent une menace permanente pour nos concitoyens.
Christian Estrosi, en attaquant le marché de Noël, l'assaillant, fiché S, s'en est pris à un symbole chrétien. Ça donne un sens particulier à cette attaque?
Et le village de Noël est un symbole chrétien. Le père Hamel était un symbole chrétien. J'ai dit par le passé que c'était quelque part l'héritage de notre civilisation judéo-chrétienne à laquelle Daesh, et il ne faut surtout pas mélanger avec la communauté musulmane de France qui, dans une immense majorité, sont des républicains et parfaitement intégrés, mais que ceux-là qui utilisent la religion à des fins politiques, effectivement, ne ciblaient traditionnellement que ce type de cible, ce type d'objectif, parce que c'est un moyen pour eux de mieux renforcer politiquement la barbarie qu'ils utilisent face à des hommes et à des femmes qui souvent, sur ces marchés comme sur la promenade des Anglais, il y a eu près de 30% de musulmans qui sont morts sur la promenade des Anglais. Ils font le savoir, c'est-à-dire que ce au nom de quoi ils se revendiquent va créer aussi la désolation et la mort chez les leurs.
Merci Christian Estrosi.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. C'est tous les jours à 8h15.
Europe 1. Il est 8h26.
À suivre la revue de presse de David Abiker. Strasbourg, gilets jaunes déjà, des théories du complot. 8h38, on repartira à Strasbourg pour faire un point sur la situation au lendemain de l'attentat sur le marché de Noël avec notre correspondant Arthur Elmbaché. Et puis à 8h45, comment rire, comment sourire quand l'actualité est dramatique grâce au talent de Nicolas Cantelou et de la revue de presse. À tout de suite.
Europe 1. La revue de presse de David Abiker, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Et il fait froid ce matin, Laurent Cabrol. Est-ce qu'il y a de la neige en montagne?
Malheureusement, il fait froid. Malheureusement, ça ne donnera pas de la neige car les endroits où il fait froid, c'est en montagne justement et sur l'est de la France. Hein, moins 5 à Mulhouse, moins 4 à Nancy. Quand j'ai en montagne, c'est en montagne et en pleine. Hein. Moins 3 à Saint-Etienne, moins 1 à Lyon. Vous voyez que ce sont des régions de l'est qui sont les plus froides. Mais les régions de l'ouest, là, il pleut et s'il avait fait froid, on aurait eu un petit peu de neige. En tout cas, j'ai regardé pour ceux d'entre vous, chers amis, qui ont envie d'aller à la montagne à Noël et qui cherchent à avoir de la neige. Pour l'instant, il faut aller à plus de 2000 mètres. Les plus gâtés sont ceux qui iront dans les Alpes du Sud et les massifs les plus importants, les plus pourvus en neige, le Queyras, le Mercantour, le Mont Blanc et la Chartreuse. Voilà. Mais partout ailleurs, ce sera un petit peu léger en ce qui concerne l'enneigement en dessous de 2000 mètres. Aujourd'hui, de la pluie ou des pluies passagères, mais vraiment qui ne donneront pas grand-chose sur la Bretagne, la Loire-Atlantique, le Poitou-Charentes, la Basse-Normandie, l'Occitanie, l'Aquitaine et l'Auvergne. Et puis des régions où le temps sera sec, Paris, le centre, le nord, la Picardie, la Lorraine, l'Alsace, la région Rhône-Alpes, le Languedoc, la Provence. Voilà pour la couleur du ciel et le temps qu'il va faire chez vous aujourd'hui. Et les températures maximales baissent bien sûr entre 1 et 5 au nord et entre 8 et 14 au sud.
On vous accompagne ce matin jusqu'à 9h si vous partez travailler, si vous êtes chez vous tranquillement ou dans les transports, en voiture ou dans les transports en commun. On vous accompagne et il y aura un prochain point météo avec Laurent Cabrol juste avant 9h.
Europe 1. Question épargne, la Caisse d'épargne vous répond.
Blandine Bernier, vous êtes experte assurance vie à la Caisse d'épargne. L'assurance vie est le placement préféré des Français. Encore faut-il être bien accompagné pour adapter son contrat à ses objectifs.
Absolument. L'assurance vie permet de rechercher du rendement pour votre capital en investissant sur les marchés financiers, ce qui comporte une certaine prise de risque. À la Caisse d'épargne, selon vos besoins et votre profil, nous vous proposons des options pour accompagner votre investissement et chercher à le protéger au mieux.
Et ça veut dire quoi concrètement ?
Concrètement, vous pouvez par exemple mettre automatiquement vos plus-values à l'abri ou encore limiter la baisse de votre capital en cas de chute importante des marchés financiers. À vous de choisir avec votre conseiller la formule qui vous correspond le mieux.
Pour bien choisir ses placements, il faut être bien accompagné. Découvrez le nouveau parcours épargne personnalisé en prenant rendez-vous avec un conseiller Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Renseignez-vous en agence. Contrat d'assurance vie distribué par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS.
Nous sommes le mercredi 12 décembre et il est 8h30.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
On retrouve David Abiker, Nikos, pour la revue de presse.
L'actualité à Strasbourg au lendemain de l'attentat sur le marché de Noël. 3 morts, le tireur en fuite et 13 blessés. David, bonjour. Ce matin, à la une des journaux, Strasbourg, ville meurtrie.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Tous les journaux, bonjour. Effectivement, ce matin, mettent l'attentat de Strasbourg à la une. L'Alsace, fusillade mortelle à Strasbourg. Le Figaro, la France à nouveau frappée par le terrorisme, ou encore l'Est éclair, Strasbourg, le marché de Noël attaqué. Mais on ne trouvera pas en revanche les dernières nouvelles d'Alsace dans les kiosques. Nous avons été confrontés à l'impossibilité technique de l'imprimer à cause des barrières de sécurité mises en place au centre de Strasbourg où se trouve notre imprimerie, explique ce matin la rédaction sur le site internet du journal. Terreur à Strasbourg, peut-on lire à la une de l'édition en ligne donc ? Et cet édito de Dominique Ginck pour qui Strasbourg est la victime de son statut de capitale de Noël. Voilà ce qu'il dit. « Le sang répandu est là pour décupler l'horreur, écrit-il. La colère et la division. C'est ce piège de la division qu'il faut éviter. L'Alsace en deuil doit se rassembler autour des familles plongées dans le malheur en ce banal mardi où chaque habitant de Strasbourg comprend qu'il aurait pu, lui aussi, se trouver près de la place Kléber à portée de tir d'un assassin. »
Et sur Twitter ce matin, les réactions politiques de solidarité pour la plupart, mais très vite, les premières polémiques, c'est habituel.
Solidarité de la nation tout entière pour Strasbourg, peut-on lire sur le compte Twitter du président de la République. Même tonalité pour les leaders de l'opposition, d'Alexis Corbière de la France Insoumise, au responsable des Républicains, en passant par Olivier Faure, numéro 1 du Parti Socialiste, qui a ces mots. Dans ces moments-là, tout s'arrête. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, dit-il. Mais non, tout ne s'arrête pas, car très vite, le cas de ces fichiers S passés à travers les mailles de la police provoque d'autres réactions. Combien d'attentats commis par des fichiers S devons-nous encore subir avant d'adapter notre droit à la lutte contre le terrorisme, s'interroge Laurent Wauquiez, lui aussi sur Twitter. Idem pour Marine Le Pen qui, dans le même tweet, dit son deuil aux victimes, évoque, je la cite, la tuerie islamiste de Strasbourg et réclame un changement radical de politique face au terrorisme. Solidarité d'abord, questionnement ensuite, mais également polémique. Le tout intervient désormais sur Twitter en quelques heures quand il fallait autrefois quelques jours. Ainsi David Rachline, sénateur du Rassemblement national, dès hier soir, tweetait ceci, j'ouvre les guillemets. Si seulement le ministère de l'Intérieur était capable d'interpeller préventivement, aussi rapidement et brutalement les islamistes fichés S que les gilets jaunes présumés violents, je ferme les guillemets. Et en faisant un lien indirect, improbable entre gilets jaunes et attentats de Strasbourg, le parlementaire joue avec le feu.
Et on lira, pour s'en convaincre, le Huffington Post ou l'Obs en ligne.
Les deux sites racontent comment depuis l'annonce de l'attentat de Strasbourg, certains comptes Facebook des Gilets jaunes sont souvent, malgré eux, je dis malgré eux, submergés de commentaires complotistes. Selon ces commentaires, l'attentat de Strasbourg est l'occasion pour le pouvoir de détourner l'attention et d'affaiblir le mouvement. Certains modérateurs gilets jaunes ont préféré, en responsabilité, je le redis, en responsabilité, fermer les commentaires aux idioties. Mais ça n'empêche pas, l'une des voix les plus populaires du mouvement, Maxime Nicole, alias Flyrider, de laisser planer le doute dans une vidéo qui ne va qu'alimenter les délires. J'ouvre les guillemets. Dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat, vraiment, il n'attend pas qu'il y ait trois personnes dans la rue le soir à 20h. Il va au milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser, je ferme les guillemets, raisonnement fallacieux, mais qui suffit à plonger les plus naïfs dans la confusion et les pousse à soupçonner le pouvoir de se servir du terrorisme pour faire diversion. C'est odieux. Alors au délire complétiste de certains gilets jaunes, on préférera ce matin Le Monde qui consacre une double page à une enquête pionnière sur la révolte des revenus modestes. Enquête lancée fin novembre par 70 universitaires pour comprendre en profondeur la sociologie du mouvement, loin des amalgames, des récupérations et du conspirationnisme. Et mon cher Nikos, on va terminer avec deux images qui racontent les temps modernes et nos émotions collectives à géométrie variable, à géographie variable. La première image scandaleuse, elle est en Une de Libération qui montre comment la police a rétabli l'ordre à Mantes-la-Jolie jeudi dernier en obligeant 151 jeunes et parmi eux des casseurs à s'agenouiller main derrière la tête. La vidéo en a scandalisé beaucoup quand d'autres estiment qu'il fallait bien maîtriser les plus excités. Loin de chez nous, très loin de chez nous, la photo d'un couple simulant l'amour au sommet de la pyramide de Khéops qui provoque depuis plusieurs jours la colère des autorités qui parlent d'un crime très grave. Vous avez deux scandales, deux images. Je vais poster la Une de Libération et la photo de ce couple en Égypte. À vous de me dire, en vous mettant peut-être à la place des Égyptiens, la photo qui vous choque le plus.
David Abiker, je retweeterai votre proposition et justement cette comparaison de deux cultures, de deux images, de deux regards, un peu comme dans votre revue de presse quotidiennement, tous ces regards croisés pour ne tirer que l'essence, l'info. David Abiker sur Europe
1. Il est 8h36, Nikos.
À suivre votre matinale spéciale très largement consacrée à l'attentat de Strasbourg hier soir qui se poursuit. Dans un instant, je serai en ligne avec notre correspondant à Strasbourg, Arthur Almbaché. On fera le point sur la situation actuelle alors que le terroriste est toujours recherché par la police. 8h45, la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. A tout de suite. Bonne journée, bonne matinale à tous sur Europe 1.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 8h38, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Plus de 12 heures après l'attaque perpétrée par un homme fiché S, la ville de Strasbourg est quadrillée ce matin. Nous y serons dans un instant avec notre correspondant Arthur Anbaché. L'homme de 29 ans a pris la fuite. Il est activement recherché par 350 policiers et gendarmes. Le dernier bilan s'élève à 3 morts, 8 blessés graves, 6 blessés légers, parmi lesquels figure un soldat sentinelle. Le secrétaire d'État Laurent Nunez parle ce matin d'une traque difficile. Il a confirmé que le suspect aurait dû être interpellé hier matin pour une autre affaire, une affaire de droit commun. La motivation terroriste de l'acte n'est pas encore établie, ajoute Laurent Nunez. Emmanuel Macron va tenir un conseil de défense restreint à l'issue du Conseil des ministres. Par ailleurs, le gouvernement a porté le niveau du plan Vigipirate à urgence attentat, mise en place de contrôles renforcés aux frontières et sur l'ensemble des marchés de Noël en France.
Europe 1.
Nikos Aliagas, votre matinale spéciale consacrée à l'attentat de Strasbourg continue.
Avec Alain Acco de la rédaction d'Europe 1 et du service police-justice, une dernière information Alain.
Oui, l'arme utilisée. L'arme utilisée, un pistolet automatique ou semi-automatique. On connaît désormais le calibre. Nous avons la confirmation sur Europe 1 que le calibre de cette arme est un 8 mm. C'est important car c'est un calibre qui est très peu utilisé, qui correspond en général à des armes anciennes. Aujourd'hui, ce sont des pistolets d'alarme qui sont équipés de ce calibre en général. Il peut y avoir des armes à de 8 mm qui tuent, on l'a vu hier soir, mais ça ne correspond pas aux armes habituellement utilisées par des terroristes ou par le grand banditisme.
Laissez-moi vous poser une question, Alain. On connaît l'identité du terroriste, on ne donne pas son nom dans les médias. Pourquoi ? Pour ne pas en faire une victime exemplaire, un martyr ?
D'abord, ce n'est pas encore un martyr, c'est surtout un tueur que l'on recherche. C'est un homme que l'on traque et cela peut encore permettre...
Présomption d'innocence alors ?
Ce n'est pas tant la présomption d'innocence que l'efficacité opérationnelle des recherches qui sont actuellement entreprises, tous azimuts à Strasbourg, dans les appartements de tous les proches de cet individu, dont ses proches ne savent pas forcément qu'il s'agit de lui.
Alain Acco du service police-justice d'Europe 1. Arthur Anbaché, vous êtes en direct de Strasbourg. Quelle est l'ambiance ce matin dans les rues de la ville? On imagine que c'est le choc au lendemain de cet attentat. Une ambiance lourde?
Oui, écoutez, à l'instant, là, dans une rue du centre-ville de Strasbourg, une dame qui était au téléphone est passée à côté de moi. J'ai juste eu le temps d'entendre une unique phrase qu'elle prononçait. Elle disait « J'ai pas dormi de la nuit à cause de cette affaire. Mmh. » Je me trouve juste à côté d'une école strasbourgeoise et j'ai fait un petit tour il y a 10 minutes pour m'entretenir avec le personnel éducatif. C'est radical ce matin. Il n'y a quasiment aucun élève alors que l'accueil est possible dans les écoles strasbourgeoises. Les parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants ou la possibilité d'amener leurs enfants, mais il n'y a quasiment personne. Les parents préfèrent garder leurs enfants chez eux, en sécurité, à la maison. Ça témoigne, si vous voulez, du niveau d'inquiétude quand même qui existe chez les habitants de la ville. Même si, il faut le dire, Nikos, le tram circule. Il y a autour de moi, là, en ce moment, quand même pas mal de monde. Les gens vont travailler. Les gens qui m'ont dit tout à l'heure, on ne va pas s'arrêter de vivre. Certes, il y a cet homme qui est en fuite. C'est inquiétant, mais il ne faudrait pas, en plus, que la ville s'arrête et qu'on offre, pour ainsi dire, une seconde victoire à ce terroriste. Donc, pas d'état de siège.
C'est l'insouciance des habitants, c'est l'insouciance des Strasbourgeois qui essayaient tant bien que mal de se mettre dans une ambiance de Noël, alors qu'on vit aussi depuis plusieurs semaines une ambiance sociale tendue, à la fois dans la région, mais partout en France. Et il faut le rappeler, Arthur Anbaché, Strasbourg a souvent été visé par des tentatives d'attentat. Mais les gens l'avaient presque oublié.
Avec le temps, malheureusement, ça va peut-être être une image qui va vraiment coller à la ville de Strasbourg. Avant le 11 septembre 2001, un an avant, il y a eu un projet d'attentat au marché de Noël, à la cathédrale de Strasbourg, en l'an 2000. Un projet extrêmement avancé, avec des terroristes proches d'Al-Qaïda qui avaient préparé leur coup, qui avaient tout filmé avec un caméscope à l'ancienne, comme il y avait au tout début des années 2000. Ils avaient tout filmé, le trajet sur l'autoroute, ils venaient d'Allemagne, le trajet, l'arrivée à Strasbourg, le marché de Noël, la place de la cathédrale. Et on entend la personne qui tient la caméra, qui dit en arabe des propos absolument horribles sur « demain ». Tous ces gens qui sont là vont tous mourir. Heureusement, les forces de l'ordre ont réussi à interrompre ce projet le soir même ou le lendemain, je ne me rappelle plus. Enfin, toujours est-il que ça a été annulé in extremis, empêché in extremis. Et puis, il y a eu ces dernières années une vague à Strasbourg, dans les quartiers de Strasbourg et dans certaines communes aux alentours de Strasbourg, de départ en Syrie. Et il faut rappeler quand même qu'un des terroristes du Bataclan, Nikos, a passé beaucoup de temps à Strasbourg. Il vient de Wissembourg, qui est une commune à quelques kilomètres de Strasbourg.
Alain Acco ?
Il y avait également eu une tentative il y a 2 ans qui visait le marché de Strasbourg, effectivement, le 1er décembre, qui avait été avortée grâce à l'action des services de renseignement.
Alain Coe et Arthur Almbaché en direct de Strasbourg. Merci messieurs pour ces informations correspondant dans l'Est d'Europe 1. Arthur Almbaché, on vous retrouve bien sûr dans toutes les éditions de la journée. 3 morts, 13 blessés et le tireur est toujours recherché dans la région de Strasbourg.
Europe 1.
Il est 8h43 à suivre, Nico Saliagas.
L'actualité est lourde, mais rire un peu, sourire, souffler, va nous faire du bien. Nicolas Cantelot, la revue de presse qui est Julie.
7h, 9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 8h45.
Ma chère Julie, vous avez légèrement la voix enrouée, mais elle n'est pas dénuée de charme.
Oh, que c'est mignon.
Vous restez toujours solaire.
Oui, non, il va falloir soigner mon asthme, parce que c'est ça qui me donne cette voix.
C'est avec Nicolas Cantelot, on s'occupe de tout, une bouffée d'oxygène. C'est parti.
Allez.
C'est presque du Nikos, j'ai envie de dire. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Cantelou.
Ouais.
Allez, Nikos, le titre principal de l'actu, s'il vous plaît.
Eh oui, l'info surround, chers amis, ce matin, c'est ce choc, ce coup de théâtre. On ne parle presque plus de gilets jaunes ce matin. Bon, vu les circonstances et le nombre de victimes, on aurait adoré continuer un peu. Ce matin, Europe 1 ne va pas très loin. On va juste tous à Strasbourg, en pensée. Nous sommes des incorrigibles optimistes. On avait oublié cette tristesse des matins d'attentats. Alors courage aux habitants de Strasbourg, au cœur plus grand que leur cathédrale. Mais notre rôle ici, c'est de vous faire sourire chaque jour, du moins essayer. Alors allons-y, avec ces manifestations anti-gouvernement, gilets jaunes et maintenant un attentat par un fichier S. Pour Marine Le Pen, c'est Noël avant l'heure. À vous, ma chère Julie.
Allez, comme vous dites. Merci, Nikos. L'ex-ministre de l'Intérieur est avec nous maintenant. Bonjour, Gérard Collomb.
Oui, bonjour.
Alors, samedi, de nouvelles manifestations risquent d'avoir lieu, ainsi que de nouveaux pillages. Certains commencent à dire que vous êtes parti au bon moment, Gérard Collomb.
Écoutez, c'est l'expérience, je le sentais, c'est, comment dire, le flair de pépère, comme disent mes amis. C'est vrai que j'ai peut-être ce don, j'ai un côté Nostradamus, que j'ai bien connu d'ailleurs, ce Nostradamus.
Ah, Nostradamus, bien connu.
Oui, un jeune très sympathique, nous avons fait notre terminale ensemble. Je me posais une question sur mon successeur au ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il vient à peine d'arriver, il se prend une guerre civile de 4 semaines et derrière des attentats, est-ce qu'il ne serait pas un peu chat noir ?
C'est vrai que c'est une période difficile pour lui.
Je pense qu'on le fait démarrer trop fort, Castaner. On ne démarre pas le Tour de France par le Mont Ventoux, on démarre par un petit faux plat. Il va se claquer à coup sûr.
Allez, merci des conseils, merci Gérard Collomb. Allez, on va maintenant recevoir le président de la République. Bonjour Emmanuel Macron.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à la France que j'aime, aux gilets jaunes que j'ai négligés, aux femmes qui souffrent sur les ronds-points quand elles veulent nourrir leurs enfants.
Oui, bon, ça va, ok. Votre allocution n'a semble-t-il pas convaincu l'ensemble des gilets jaunes,
Pardon ? Toujours pas ? Enfin, mais qu'est-ce qu'il leur faut ? Bon, alors on va recommencer. À la technique, balancez-moi la musique qui fait chialer en régie. J'aimerais que les Français comprennent que... Allez-y, musique. Ma seule préoccupation, c'est votre bonheur. Le bonheur de cette femme édentée. Au chignon gris, qui ressemble à une vieille prof de latin qui aurait fini clochard et qui travaille 15 jours par semaine, la nuit, dans une usine de confection qui n'a plus de chauffage depuis 1995, sous sa robe grise, un bébé trop maigre, essaye de téter un sein flappy, un sein rabougri et misérable, un sein vide de toute substance nutritive.
Monsieur Macron, s'il vous plaît. Donc, vous maintenez ce par quoi vous avez conclu votre discours lundi soir en vous adressant aux Français. Mon seul souci, c'est vous.
Ah ben c'est clairement, mon seul souci, tu peux arrêter la musique, mon seul souci, c'est ben j'en ai pas d'autre, c'est bien les seuls à me faire chier. Oui, parce que franchement, Ok, j'ai vu votre regard empathique, oui. On a dit empathique. Empathique, il faut que je sois empathique. Faut que je retravaille mon empathie.
Ah oui, et il y a du boulot. Allez, à bientôt.
Et
Emmanuel
votre empathie
Macron.
Aussi, votre empathie aussi, votre empathie aussi.
On n'a pas prévu.
Merci Jean-Michel.
Les annonces d'Emmanuel Macron ont été chiffrées. Elles vont coûter environ 10 milliards d'euros à l'État.
Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau tirage de My Million. Aujourd'hui, je rappelle que vous jouez pour la super cagnotte de 10 milliards d'euros. C'est une belle somme, 10 milliards d'euros. Et regardons tout de suite s'il y a un vainqueur en France.
Alors,
sur notre beau territoire.
Oh Jean-Pierre, il y a des vainqueurs, Julie, ou pas?
Alors. Des vainqueurs? Oh non, ah, il n'y a pas qu'un vainqueur. Non, il y a trois vainqueurs, ma chère Julie.
Ah.
Les vieux, les travailleurs qui font des heures supplémentaires et les smicards. Ils devront donc se partager la coquette somme de 10 milliards d'euros. Les chômeurs, vous êtes les grands perdants, les grands oubliés de ce tirage My Million. Mais rassurez-vous, samedi, il vous reste une chance au cramage.
Oh là là, bah oui, on a l'habitude, malheureusement. Merci Jean-Pierre Foucault.
Je t'en prie.
Allez, on va revenir sur les mesures annoncées par Emmanuel Macron, qui sont toujours très commentées. Bonjour Dany Cohn-Bendit.
Ouais, bonjour Thomas.
Non, merci. Bonjour Thomas, on embrasse
oui,
Thomas
on
Soto.
Mais
on l'aime Thomas Soto.
Alors, les mesures d'Emmanuel Macron sont saluées un peu partout dans la presse, hein, les journalistes ont trouvé le président bon, à la hauteur de l'événement, mais les gilets jaunes n'ont pas l'air très convaincus.
Dany. Mais attends, mais c'est normal qu'ils ne soient pas convaincus. Ils ne comprennent pas quoi qu'il dit, le président. Ils sont bac moins 12, certains. Macron, il fait des phrases trop compliquées. Ils ont l'impression d'avoir du coup été enfumés. Attends, écoute, franchement, laisse-moi faire. Je les connais, je vais leur parler, moi, aux gilets jaunes. Bon. Alors, écoutez-moi, vous avoir gagné, bravo. Vous vouloir le gel des taxes sur essence, vous l'avoir. Vous vouloir la baisse du contrôle technique, vous l'avoir. Vous vouloir plus de sous, tout de suite, vous les avoir. Vous tout gagnez, ok? Donc vous rentrez maison maintenant.
Oh,
okay,
arrêtez, mais c'est méprisant tout ça, enfin.
Mais non.
Bah vous ne les aimez pas, ces gilets jaunes.
Mais
vous,
non,
hein,
mais écoute.
Vous avez toujours été du côté de Macron, d'ailleurs.
Mais mets-toi à ma place. En mai 68, nos slogans, c'était « Sous les pavés, la plage
». Oui.
Ils veulent autre chose. Aujourd'hui, c'est sous les pavés de pointe 7G. Non, ça sonne pas. Elle est nulle, cette révolution. Merde,
bon,
Thomas.
Allez, merci, Dany. Calmez-vous. Calmez-vous. Samedi dernier, des violences ont eu lieu à Paris, mais aussi en province et notamment à Bordeaux. Son maire, Alain Juppé, a poussé un cri d'alarme. Bonjour, Alain Juppé.
Oui, bonjour.
Ça n'était jamais arrivé, hein, de mémoire de Bordelais, toutes ces violences.
Écoutez, tout à fait. Nous avons vu, en tout cas, j'ai vu déferler sur Bordeaux deux populations totalement inconnues, de nous les Bordelais, des jeunes et des pauvres.
Des jeunes et des pauvres.
Il y avait même des jeunes qui étaient pauvres. Alors là, c'était carrément l'enfer. Des jeunes pauvres avec qui la barrière de la langue a été totale, vous en doutez. Alors, nous n'avons pas pu établir de dialogue, donc nous avons fait appel à des traducteurs. Bon, j'ai compris quelques bribes de mots, hein, comme vaniketarum. Bon, va te faire cuire le luc salieuve.
Salieuve, oh non.
Alors aujourd'hui, des experts de la police scientifique sont en train de tenter de traduire ces propos.
Bon, bah, nous, on a bien compris, on a bien saisi le sens. Alors, on va en rester là, hein, monsieur Juppé. À bientôt.
Si vous avez un champollion sur le coude, on prend.
Ouais, d'accord. Alors qu'un cinquième samedi de manifestation se profile, on va revenir sur les cas de ces gilets jaunes interpellés en amont avec, dans Le Parisien, David Abiker nous en parlait hier, je cite, Julien, condamné à 4 mois de prison, il a été interpellé avec des lunettes de piscine, une raquette de tennis et 50 écrous. Bonjour Nelson Montfort.
Ouais, tout à fait, c'est une information que nous donnait David Abiker hier, l'homme à la Lexus. Tout à fait, ma chère Julie. J'ai une petite promo au passage.
Allez, ouais.
Au passage, si Lexus peut me faire une petite traduction. Merci. Donc, si je tiens à rassurer tous nos amis policiers, amis CRS, n'ayez pas peur, ce jeune homme a effectivement une raquette de tennis. S'il avait été espagnol comme Rafael Nadal, il aurait fait de très très gros dégâts, n'en doutons pas, mais il est français, donc aucun écrou ne va rentrer dans le cours, aucun écrou n'atteindra sa cible, ça je vous le garantis, croyez-moi, j'ai 30 ans de Roland-Garros derrière moi, tout va bien.
Enfin, tout va bien.
Bravo.
Nelson, on ne peut pas se réjouir des pillages quand même, la boutique Décathlon de la Madeleine a été dévastée, un Go Sport, pareil, la boutique Lacoste aussi, et puis une boutique de golf dans le 16e arrondissement de Paris qui a été pillée.
Je tiens à saluer ce pillage, c'est du très beau pillage de qualité, uniquement sur des articles de sport et sur du made in France. Ça prouve l'amour du sport et la conscience politique de ces jeunes gens. Vive le sport, vive le made in France et à samedi.
Oh là là,
non,
là
non,
là
non,
là
non,
là
non, 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 pas samedi. Celui qui manifeste et il prend une autorgone directement made in Apathy. Sinon, ça sert à rien que je fasse toutes ces chroniques.
Ah bah oui, vous
pardon, avez... Jean-Michel, non, pas samedi alors, pas samedi.
comme le disait ce matin, Jean-Michel est apathie.
À demain, surtout avec Julie et Nicolas Canteloup et ses auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. C'est la revue de presque tous les jours et ça fait du bien. Au sommaire de votre émission, Wendy Bouchard qui commence à 9h sur Europe 1, le tour de la question.
Oui, cher ami, nous suivrons évidemment la traque de l'assaillant de Strasbourg, les derniers éléments de l'enquête. Mais j'ai choisi ce matin de traiter d'un sujet de parole citoyenne au cœur de la démocratie, en reprenant l'une des revendications des Gilets jaunes, ce fameux référendum d'initiative citoyenne. Mmh. Alors on regardera un peu dans notre histoire les référendums d'initiative citoyenne, si cela existe d'une certaine manière, les référendums locaux, référendums nationaux, ce que ça donne aussi comme pouvoir au peuple sur les grandes questions de société. Donner la parole aux Français, en tout cas vous êtes pour avec ces consultations, vous répondez oui sur notre page Facebook à 78% ce matin. On fait le tour de ce sujet avec Jean Garrigue, notre invité.
Merci Wendy Bouchard. À tout à l'heure à partir de 9h sur Europe 1.
À suivre l'essentiel de la matinale juste avant 9h et la météo avec Laurent Cabrol. Il est 8h55. Il est 8h57, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nico Saliagas, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
On s'habille comment ce matin Laurent Cabrol?
On se couvre bien mes amis, puisque vous savez, les températures ont bien plongé. Sous Abri, nous avons du moins 5 à Épinal, moins 6 même du côté de Mulhouse, moins 5 à Nancy, Colmar, moins 4 à Saint-Etienne, moins 1 à Lyon et Lille. Autour de 0 degré en banlieue parisienne, 2 degrés à Toulouse, Marseille et Paris intramuros, d'où 2 degrés aussi à Bordeaux et Cognac, 4 à Caen, 5 à Rennes et 8 à Brest. Côté couleur du ciel, quel temps fait-il chez vous, bien si vous habitez en Bretagne, dans l'Anjou, en Loire-Atlantique, Poitou-Charente, Basse-Normandie, Limousin, Occitanie, Aquitaine, Auvergne, dans toutes ces régions, vous aurez un petit peu de pluie, un temps maussade, puisque la perturbation arrive par l'Atlantique. Voilà, de la neige à partir de 1000 mètres sur les massifs, mais comme pratiquement il ne pleuvra pas, il ne neigera pas non plus dans les régions touchées par ces chutes de neige éventuelles. Picardie, Nord, région parisienne, Lorraine-Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes et Languedoc. Vous êtes dans des secteurs où le temps sera plutôt, disons, ensoleillé. N'exagérons rien, mais enfin, ce sera un soleil d'automne, un pâle soleil d'automne, avec des températures de 2 à 8 degrés. Allez, bon, c'est tout à fait de saison, on va pas se plaindre, c'est exactement le temps qu'il nous faut aujourd'hui.
Merci, à tout à l'heure.
Nous sommes le mercredi 12 décembre, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de ce 7-9, ce qu'il ne fallait pas rater, matinale spéciale, largement consacrée à l'attaque terroriste survenue hier soir à Strasbourg. Un homme a ouvert le feu sur la foule dans une ruelle du centre de la ville, près du marché de Noël. Bilan provisoire, 3 morts, 13 blessés, dont 8 graves. Écoutez le témoignage d'Arsène, un Strasbourgeois. Il était aux premières loges lorsque le drame est survenu.
J'ai entendu d'abord des coups de feu, en fait, des gros cris, énormément de cris, et là j'ai compris que c'était pas quelque chose de normal. À la fenêtre, je vois un corps allongé, une famille autour avec une femme et deux ou trois enfants en très bas âge, et bah, des gens qui courent partout dans la rue, la panique quoi. Forcément, je suis choqué, c'est la première fois que j'ai quelque chose d'aussi violent de ma vie.
Alors qui est cet individu, ce terroriste toujours recherché? Quel est son profil? Les informations d'Alain Co, le chef du service police-justice d'Europe 1, c'était dans le journal de 8h.
Il a été fiché S il y a 2 ans par la DGSI à cause de son prosélytisme religieux qui a attiré l'attention des agents du renseignement pénitentiaire. Jusqu'alors, ce Strasbourgeois de 29 ans, né de parents originaires d'Afrique du Nord, était exclusivement connu pour des faits de droit commun, vol, violence, dégradation, outrage. Il a d'ailleurs déjà été condamné plusieurs fois en France, mais aussi en Allemagne, où il n'est pas exclu qu'il ait pris la fuite.
Le tireur qui était armé d'un pistolet de calibre 8 mm, plus de 400 policiers et gendarmes sont mobilisés en ce moment pour retrouver le fugitif dans les équipes de la BRI et du RAID. À 7h15, j'étais en ligne avec Roland Ries, le maire de Strasbourg. Un dispositif de sécurité spécial est mis en place aujourd'hui dans la capitale alsacienne. On écoute le maire.
C'est une illusion, mais d'un autre côté, c'est la force du terrorisme. Ça frappe de temps en temps, la vie reprend ses droits, les gens vivent normalement et pensent que c'est derrière eux, mais bon, c'est fatalement une illusion. C'est la force du terrorisme, ça nous surprend toujours. Si ça ne nous surprenait plus, eh ben, ça serait beaucoup moins choquant. Donc, il faut que...
Le maire de Strasbourg, Roland Ries, qui s'adressera aux Strasbourgeois à 11h30, voilà 7 mois que la France n'avait pas été touchée par un attentat. C'était le 12 mai dernier à Paris, une attaque au couteau qui avait fait un mort. L'assaillant avait été abattu par la police. Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Merci à toutes les équipes éditoriales et techniques. Merci à vous de nous faire confiance. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous tout de suite. C'est Wendy Bouchard qui prend la suite de l'émission avec notre amie Julie. Céline Dacosta, c'était un plaisir. Bonne journée.
À demain, Nico. Et merci à vous.